Salut tout le monde, amis de Radio Courtoisie, comme tous les samedis matins, vous êtes sur le libre journal des controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur, qui n'est pas là pour le coup, il n'était pas là, hein. Il préfère aller à la plage, les doigts de pied en éventail dans ce week-end de Pâques. Maintenant, il n'est pas à la plage, il est à Angoulême. Putain, Angoulême. Alors franchement, je ne sais pas ce qu'il a eu appris, il aurait mieux fait de rester à Radio Courtoisie entre nous. Hein. Bon, Angoulême, c'est sympathique, mais quand même. Bon, bref. Je salue donc Nicolas Stocker et Lara Stam qui sont à Angoulême et qui, j'espère, nous écoutent. Je salue bien entendu Sylvie au standard. Elle a la plus belle écriture de Radio Courtoisie, donc elle est préposée à cette matinale. Elle sera là, elle vous écoutera et elle nous enverra toutes vos questions. Donc appelez, n'hésitez pas à appeler. Et bien entendu, je salue le plus beau, le meilleur, le seul, l'unique, Arnaud, le Steven Spielberg de la réalisation. Il réalise comme personne. Et donc, il est avec nous. Alors, qui c'est qui a nous donné les commentaires? C'est toi ou c'est Sylvie? C'est Sylvie à l'écrit et toi en mail, c'est ça?
Non, je lui ai imprimé les courriels et elle te les
d'accord.
amènera.
Voilà. Ok. Donc, je suis très content. Je reçois aujourd'hui trois... On peut appeler ça influenceur, militant politique, je ne sais pas, je vais leur poser la question. Donc Magélia, l'abbé et Kevin, c'est Kevin.
Monsieur Kev.
Voilà, monsieur Kev, monsieur, pas Kev Adams, hein.
Non,
ça c'est un autre. Et on va parler de patriotisme, on va parler des citoyens patriotes, un groupement de militants politiques qui sont sur les réseaux sociaux et qui veulent réimposer le drapeau français et le patriotisme auprès de nos nouvelles générations. Et visiblement, c'est compliqué, hein. C'est pas si simple que ça parce que ils sont menacés. Sortir le drapeau français en France, visiblement, c'est interdit. Déjà à Lille, ils ont eu nombre de problèmes. Ils en ont aujourd'hui à Nantes. Donc on va en parler parce que nous sommes quand même la radio de toutes les droites, de tous les talents, bien entendu, mais de toutes les droites surtout. On va avoir un sujet vraiment très patriote et donc n'hésitez pas à nous appeler. Magélia, on est chez les fous dans ce pays.
On est chez les fous, effectivement. Et c'est vraiment le moment de le dire. On a été extrêmement surpris. Aujourd'hui, le fait d'arborer le drapeau français en France pose problème. Et on nous qualifie clairement de racistes, de fachos, juste pour ça. Alors que nous, la mise en avant, clairement, de notre association, les citoyens patriotes, c'est les valeurs de la France, l'amour de notre patrie. Enfin, voilà ce que tout le monde devrait faire. À la base, on ne devrait même pas... Enfin, on a été quand même... on a créé une association pour ça, alors que normalement, ça ne devrait même pas, parce que ça devrait être naturel. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve confronté à une bande qui se dit Antifa, alors que les nouveaux fascistes, c'est eux, clairement, parce qu'on va être clair, qui nous menace et qui menace également les gens qui vont venir à notre rassemblement. On a mis en place un rassemblement donc le 11 avril, donc le week-end prochain, sur Nantes. Et clairement, la police de Nantes, avec qui on est en contact quand on fait des rassemblements, parce que la police de proximité est là aussi, nous ont clairement déconseillé de venir. Parce qu'ils se sont rassemblés, les pseudo-antifas, moi je les appelle les anti-France. On va les appeler les anti-France parce que j'aime pas les appeler les antifas.
C'est juste.
Voilà. Donc les anti-France se sont réunis pour clairement... Il y a eu des vraies menaces, des mises. Et nous, on a pris la décision de ne pas se rendre à Nantes. Et donc, d'ailleurs, on va en informer les gens qui comptaient se rendre à Nantes. Parce que nous, nos rassemblements, c'est des rassemblements pacifiques, des rassemblements où il y a des familles. On a des enfants qui viennent avec leurs parents pour passer un bon moment patriotique. Et clairement, il est hors de question qu'on mette en danger des familles parce qu'une bande de fils de bourgeois, parce que les anti-France, c'est des fils de bourgeois, on ne va pas se mentir, ont décrété que le drapeau français, c'était raciste. On va pas se laisser faire. Et nous, on va avant tout, on protège les gens qui viennent à nos rassemblements.
Alors, cher l'abbé, qu'est-ce que c'est exactement les citoyens patriotes? Pourquoi cette création des citoyens patriotes?
C'est venu d'un élan collectif sur les réseaux. On s'est dit que la droite politique a du mal à s'allier, a du mal à faire front commun. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas donner des leçons, sinon on n'essayait pas de le faire nous-mêmes à nos petits niveaux sur les réseaux, entre guillemets. Il y en a qui sont beaucoup plus suivis que d'autres, mais moi, je pense à mon cas personnel. Donc on a réussi à créer un consensus avec des influenceurs qu'on, comme je pense pas dégueulasse en termes de vues mensuelles, on fait quand même, on en s'approche des 200-250 millions. Donc,
par, 250 millions
à peu près, tous, par ouais. mois, ouais, ça, on a,
c'est énorme.
On a à peu près ça. Donc après, c'est pas une question de combien fait de vues, etc. Bah,
c'était c'est vraiment... quand même important, ça prouve qu'il y a un
non,
public.
Bien sûr.
Oui, tout à fait.
Bien sûr, mais le credo de base, c'était on va mettre nos égos de côté, on va mettre nos divergences, parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles, même entre nous, on s'écharpe, etc. On n'est absolument pas d'accord, mais on arrive à mettre ça de côté au nom d'une cause commune. Et je voudrais compléter ce que Magélia a dit. On a créé Citoyens Patriotes au tout départ. D'ailleurs, la première action, c'était Paris le 12, où on était presque 5000. On dénonçait le pouvoir d'achat, on dénonçait la corruption de l'État, on dénonçait l'insécurité. C'est des sujets qui parlent à tout le monde. Tout le monde a, même si t'es le plus grand des gauchistes, t'as quand même un pouvoir d'achat à gérer, t'as quand même l'insécurité à gérer dans les rues. Donc on est dans une incompréhension totale. On sait plus pourquoi on est menacé, en fait, parce que on parle aussi à la gauche. Les sujets, ça les concerne. Ils ont des enfants. Le pouvoir d'achat, ça les concerne. La corruption de l'État, ça les concerne aussi, parce que ça va directement corréler leur pouvoir d'achat et leur insécurité, etc. Donc,
Et la France, ça les concerne.
Oui, exact.
Oui, enfin, moi, je remarque une chose, c'est que de plus en plus de ces gauchistes n'ont pas d'enfants. Oui. Deuxième chose, ils sont pas besoin d'argent parce qu'ils sont subventionnés.
On est d'accord.
Voilà, donc et puis bon bah ils vivent entre sous protection, on va dire. Donc en réalité, ils vivent un monde parallèle, je sais pas, monsieur Kev. Hein.
Ils
vivent vraiment
un monde parallèle d'un monde complètement utopique où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ils se donnent une
à part nous.
Ouais, c'est ça, à part nous.
Non, nous on est les vilains fachos.
C'est ça, des fachos, des racistes, tout simplement parce qu'on aime la France, mais ils vivent clairement dans une autre réalité qui n'est pas du tout la réalité dans laquelle on vit.
Bah, cher monsieur Kev, moi ce que je trouve fou quand même, c'est que malgré... parce que moi des fois, je regarde vite fait ce qu'ils font, je regarde en tout cas surtout leurs chiffres en fait. Et je remarque sur les YouTube et compagnie, ils ont très peu de monde qui les regarde en fait.
Non, parce que je pense que pour eux, ça se fait beaucoup sur le terrain, parce que les endoctrinements se font majoritairement dans les universités, dans les écoles, dans des groupements. Après, il y en a quand même pas mal sur les réseaux aussi. Hein, mais
Oui, mais ça dépend. Toi, sur TikTok, il y a un réseau qui n'est pas du tout le même qu'Instagram, tu n'as pas le même public.
Ouais.
C'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui regardent 4 secondes de vidéo. La gauche est très présente là-dessus, ouais, parce que ça va vite.
Ils ont un gars qui s'appelle... leur production, la Zawa, je sais pas quoi, j'ai regardé, parce que je regarde notre ami Croblanc que je salue, et donc je lui dis tiens c'est quoi ça ce Zawa, j'ai regardé, visiblement c'est eux les leaders de la gauche internet, mm-hmm. Ben ils ont 300-400 personnes en direct. Hein.
Oui, ah oui, d'accord.
Ouais, et ils prennent 200-300 000 balles de subventions par an. Hein.
Mais en fait ils sont dans un entre-soi. Ils sont dans un entre-soi, dans leur petite bulle à eux, où ils sont persuadés de détenir la vérité et de tout mieux savoir que tout le monde. C'est des donneurs de leçons, c'est des gens qui pensent à la place des autres. C'est les gens qui se permettent de prendre la parole pour les personnes qui ont, par exemple, les Noirs, les Arabes. Ils se permettent de parler à leur place déjà. Ouais. Et ça, il n'y a rien de plus raciste que de définir quelqu'un déjà par sa couleur de peau. Il n'y a rien de plus raciste que de parler à la place de quelqu'un et de vouloir mener le combat de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus raciste. Mais en fait, c'est des gens qui sont tellement issus de milieux privilégiés, parce que c'est ça. Ils sont tellement issus de milieux privilégiés qu'ils se cherchent des pseudo-combats. Et donc, ils sont persuadés d'être dans le camp du bien, mais ils sont entre eux.
C'est ça.
Et d'ailleurs, il y a eu ce problème déjà à Lille. Vous étiez parti à Lille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, vous étiez parti à Lille, créer un rassemblement avec des gens qui porteraient des drapeaux français. Voilà, puis qu'il y a des gens qui se rencontreraient. Qu'est-ce qui s'est passé à Lille ?
Ce qui s'est passé à Lille, c'est qu'on s'est pris un peu la réalité aussi. Hein, parce que, on ne va pas se mentir, on est allé à Lille en mode ça va bien se passer, comme ça s'est bien passé à Toulouse, comme ça s'est bien passé à Paris, parce qu'avant on avait fait deux rassemblements et que ça s'était très bien passé.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, je pense que moi, en tout cas, je vais parler pour moi, parce que pour les garçons, je ne sais pas, mais pour moi, je me suis pris le réel en pleine face. Je ne pensais pas que les anti-France étaient aussi virulents et aussi jeunes et aussi violents. Ouais. Vraiment. Ils nous ont pris à partie juste parce qu'ils ont entreaperçu un drapeau français. Je ne sais pas si on se rend compte.
Quand ils ont pris à partie, c'est quoi ?
C'est une agression.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ?
Ils sont arrivés, je crois qu'ils étaient une dizaine, enfin, je ne me rappelle plus le nombre exact. Ouais. Ils étaient une dizaine, ils nous ont vus de loin. On attendait quelqu'un dehors, ils nous ont vus de loin. C'est pareil, j'avais ce pull-là, donc ils ont vu mon...
Alors, t'as un pull avec la France, le coq et le citoyen patriote.
Ils ont vu ça de loin avec un bout de drapeau qui traînait. On a eu des hurlements, mais on a dit des animaux. Hein. C'est très grave, y a même... ils essayent même pas de parler, pas de réfléchir. On s'est fait hurler dessus, puis Magélia, elle est petite, mais elle a une grande bouche, donc elle s'est pas laissée.
J'ai surtout essayé de dialoguer au départ, parce qu'en plus, il y avait des nanas dans l'eau. Je me suis dit, mince quand même, des toutes jeunes femmes qui ont une vingtaine d'années et qui t'insultent de tous les noms, qui te traitent de pute, de tout ça. Et moi, j'étais là en train de dire, mais il y a quoi de raciste à sortir le drapeau français? J'ai halluciné.
Et encore une fois, on n'est pas que le drapeau, on touche des problématiques qui touchent même dans leur quotidien. Ouais, ça a fini à se prendre des chaises dans la gueule et puis à...
Ils ont pris des chaises dans la...
Déjà, ils ont menacé un de nos ambassadeurs qui s'appelle John, d'ailleurs, qui est en situation de handicap. Alors déjà, ils lui ont crié dessus en disant « Toi, l'handicapé, on va te casser les roues, tu vas pas rouler très loin. » Ensuite, de là, il y a une des antifas qui a pris une chaise et qui a essayé de la jeter directement sur Mag.
Et l'abbé, heureusement, a eu un réflexe, il l'a repoussée, sinon je la prenais pleine poitrine.
Bah, exactement. Et quand l'abbé a voulu ramener cette chaise, justement, parce que c'était la propriété du commerce qui était juste en face, il s'est fait sauter dessus par...
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à Lille, Nantes, il n'est plus possible d'organiser un événement où des gens se rassemblent avec le drapeau français.
Non, pas pour la France, en tout cas.
Non. Pour la Palestine, peut-être.
Oui. Si ça avait été des drapeaux palestiniens, je pense qu'ils nous auraient bisé les pieds. Hein, on est d'accord.
Je comprends même pas que
c'est grave. Hein.
Que c'est pas condamnable. Parce que les propos, à Lille, pour l'instant, les propos étaient condamnables. Hein. Aurélien Lecoq qui fait scander à sa troupe de débiles. Ouais. Abat les flics et les fachos devant
le député LFI. En fait, quand on est arrivé sur la place où on devait se rassembler à 14h, déjà, il y avait tout un cordon de CRS, de police. Et d'ailleurs, on remercie les forces de l'ordre parce que franchement, je pense qu'on se serait fait dépouiller. Oui, il y avait tout. Et ils étaient, je ne sais pas, il y avait au moins, on ne va pas se mentir, au moins 300 anti-France.
Oh, facilement,
c'est une certitude.
Ouais.
Et au milieu d'eux, juste devant, derrière le cordon de CRS, il y avait monsieur Aurélien Lecoq qui était en train d'avoir un sourire jusque-là pendant que derrière ça scandait à bas l'État, les flics et les fachos.
Ça veut dire que cette organisation, enfin cette manifestation aurait pu dégénérer dans une violence sans nom, quoi, en fait.
Ah non, mais pas eu les forces de l'ordre, c'était sûr.
Ils attendaient que ça.
C'était leur but, parce que déjà ils avaient aussi prévu plein de choses. Ils avaient prévu de nous jeter des sacs avec des excréments. Ils attendaient en fait les personnes aux sorties de bouches de métro et en fait aux axes de toutes les rues environnantes la place principale de Lille.
Ils ont empêché d'accéder à la manif.
Ils menaçaient les personnes qui voulaient se rendre justement sur cette place, qui ont par la suite fait demi-tour parce qu'ils avaient peur. Ils nous ont ensuite contactés sur les réseaux en nous disant que ils n'ont pas pu venir sur la place justement parce qu'ils se sont fait prendre à partie. Donc c'est quand même honteux et lamentable.
Grave. Et ils étaient extrêmement agressifs dans leur slogan. Alors vraiment, heureusement qu'il y avait le cordon de police. Et nous, en fait, normalement, on devait partir en cortège. On devait vraiment faire... Ils nous ont dit non, ça va être du statique parce que c'est pas gérable en termes de sécurité. Et nous, on s'est dit de toute façon la sécurité avant tout parce qu'il y avait des enfants aussi dans notre rassemblement. Ouais. Il y a des enfants, il y a des gens qui viennent pour l'amour de la patrie. Il n'y a rien de facho à ça. Et ils ont clairement, ils insultaient tout le monde, des enfants. Ouais. Et ils ont, comme le dit Monsieur Kev, ils ont menacé des gens qui se rendaient. Ils avaient bouché toutes les rues pour que les gens ne s'en rendent pas à notre rassemblement.
Ouais. Non, c'est une hystérie.
Quand même se rendre compte.
Et donc, ça, ce serait arrivé aussi à Nantes, visiblement.
Oui.
Et j'ai bien peur qu'à Nantes, parce que honnêtement, Nantes, le chef de la police, enfin la personne qui s'occupait en tout cas d'être en relation avec nous par rapport à la mise en place de ce rassemblement, nous a dit clairement que c'était absolument pas, il pouvait pas garantir notre sécurité.
Ouais,
c'est les RG.
Et pour Lille, on avait une sécurité interne assez importante, mais là justement vu l'engouement que ça avait pris pour Nantes, sachant qu'il y a quelques jours il y a eu une justement, ils ont fait une réunion dans une université de Nantes. On a déjà pu voir sur les réseaux sociaux aussi des affiches déjà qui étaient préparées contre nous.
Des belles fautes d'orthographe.
Avec des belles fautes d'orthographe et aussi même la CGT et tout ça.
Vous avez des photos d'affiches qu'on peut les montrer
avec
à la caméra.
Jean Moulin, c'est rigolo.
Ouais.
Ils ont mis Jean Moulin sur leur affiche alors qu'ils comprennent pas que Jean Moulin s'est battu pour défendre son pays.
Et ils ont écrit Nantes sans S. Je sais pas où ils vivent, mais enfin.
Mais visiblement, il y a des enclaves gauchistes dorénavant en France. Ah, tiens. Pas de facho dans nos quartiers, samedi 11 avril, marche fascisme.
Marche fascisme, ouais. Déjà.
Des citoyens patriotes, préparons-nous à les recevoir. Ouais, c'est...
Exactement, avec la France Insoumise, avec la CGT, avec, avec toutes ces organisations.
Que
aussi.
Fait la CGT dans le truc,
ouais, la CGT, c'est un syndicat des travailleurs, normalement, les, on comprend pas.
Les LGBT.
C'est hallucinant, bah, regardez là, je le montre à la caméra. C'est hallucinant. On a.
Donc c'est fasciste là, le drapeau français
dans l'hystérie collective. Mmh.
Donc ouais, pour Lille, on avait, comme je disais, on avait une sécurité interne qui était assez importante, qui a pu justement en fait escorter ensuite nos manifestants directement au métro en toute sécurité. Mais là, avec une ville comme Nantes, on a préféré quand même ne pas prendre le risque pour cette fois, parce que même avec une sécurité interne, enfin.
Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, cher Labbé, que des villes comme Nantes, comme Lille, ça pullule en fait.
Mais c'est pas une impression, c'est une réalité.
Pour reciter ce que disait Éric Zemmour, il y a des territoires conquis. Hein. Je pense pas que... j'aurais pas dit des enclaves étrangères, j'aurais dit des enclaves gauchistes, hein, clairement.
Ouais.
Là, j'ai eu des messages sur les réseaux. Un père de famille, il m'a envoyé un message en me disant « J'ai été croisé par des antifas dans la rue à Nantes. Ils m'ont dit, si tu viens, on te butera devant tes gamins. » Ah, on en est là. Alors que encore une fois, on fait ça pour eux, le pouvoir d'achat, la corruption de l'État, etc. L'insécurité, ça touche tout le monde, bordel.
Vous savez, il y a eu une interview là, récente de Raphaël Arnaud dans le journal Blast.
Mmh. Oui, il est revenu,
le 1er avril d'ailleurs, j'ai vu que c'était un poisson d'avril. Hein.
Et pour le coup, moi je pense que cette interview est importante parce qu'on voit un basculement chez eux qui est encore plus important. Parce qu'il parle de violence politique, il dit voilà... Il y a de la violence politique de l'extrême droite et donc en gros on doit réagir.
C'est très grave.
Et donc dans sa tête en fait et ces violences il faut les démultiplier encore plus qu'ils n'auraient pu le faire avant.
J'ai l'impression qu'ils s'inventent une violence qui n'existe pas pour justifier la leur.
Oui, bien sûr.
Il y a eu quand même un jeune garçon de 23 ans qui s'est fait assassiner, il s'est fait frapper à mort et eux ils sont en train de dire non mais c'est parce que l'extrême droite mais... Raphaël Arnaud, trouve-moi une seule vidéo où des gens de droite agressent des gens, agressent des familles, menacent des handicapés, frappent des femmes. Trouve-moi ça. Une seule et après on discute. Le seul parti aujourd'hui qui menace la sécurité intérieure de notre pays, c'est la France Insoumise. Le seul parti qui est raciste et qui est fasciste, c'est la France Insoumise. Ça, c'est juste un fait. Et c'est pas moi qui l'invente. Il y a de dire, toi, on veut pas que tu parles, donc on va t'éclater. Mmh. C'est du fascisme pur, c'est l'idéologie communiste, même du RSS. C'est exactement les mêmes choses que faisait Staline à l'époque. Et Mélenchon a repris les dictats de Staline et de Lénine. Il fait exactement la même chose et il essaye de retourner l'opinion publique où c'est pseudo-militant contre nous. Mais je trouve ça incroyable et abyssal de conneries surtout.
Mais en fait, ils pratiquent clairement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on est dans l'inversion accusatoire totale, où c'est eux qui ont tué... Alors, ils disent Quentin Derenc que, visiblement, c'était un facho. Ok, peut-être, est-ce que ça méritait des coups de pied dans la tête?
C'est pire qu'un facho, c'était un nazi.
Oui, ouais, c'était un nazi.
Un nazi catholique.
Voilà, le gars était quand même d'origine péruvienne, mais ça, ils oublient bien de le dire. Mais ça, c'est... Et au-delà de ça, est-ce que ça mérite d'être tué à coups de savate dans la tête? Et on est dans une inversion accusatoire qui est complètement lunaire. On est dans la culpabilisation. On est dans « c'est pas nous, c'est vous les méchants ». C'est ni plus ni moins sectaire. C'est une secte.
Mais ils ont réussi dans leur action, puisque, faut dire la chose, Mme Yael Braun-Pivet dit même qu'elle a regretté la minute de silence. Donc ça veut dire que la présidente de l'Assemblée nationale, qui est quatrième personnage de l'État, regrette, parce que des zigotos comme ça, peut-être ont dû la menacer, j'en sais rien, mais elle regrette une minute de silence. Enfin,
elle devrait être démise de ses fonctions dans l'instant. Je trouve ça honteux.
Mais il y a... Enfin, Raphaël Arnaud a quand même osé dire que la jeune garde... n'a jamais et ne sera jamais violente. Alors la jeune garde, elle est dissoute, on sait, mais les mecs, ils sont toujours sur le terrain de toute façon. Voilà. Et moi, ça me fait marrer quand on voit qu'il y a quand même eu des condamnations sur la jeune garde. Non, mais à part ça, Raphaël Arnaud lui-même a menacé Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête. Mais sinon, ils sont pas violents. Non, pas du tout.
Ouais. On voit des clips. Il y a encore des clips qui traînent. Je crois que je les ai vus passer hier. Les clips promotion de la jeune garde à Lyon. On voit des racailles avec des calibres, des pistolets, etc.
Comment ça, des calibres?
Bah des armes de guerre. Ils font des petits clips. Ils font les malins, ils font les bandits. Ils ont des armes de guerre, ils ont des calibres, et tu vois Raphaël Arnaud qui est derrière, comme ça, contre un mur. Ouais. Il dit, bah, qu'est-ce que tu fais là, député France Insoumise? Il n'était pas député à l'époque. Mais de dire, on prône pas la violence quand t'as des armes de guerre et des guns, et que dans les vidéos, t'es très véhément, et tu dis clairement que tu vas
dégommer. Moi, j'ai l'impression que la gauche a compris qu'elle perdait du terrain idéologique en France.
Bien sûr.
Et donc, du coup, elle va compenser ça par une ultra-violence, en fait.
Bien sûr.
Bah, elle va glaner tous les extorques un peu, parce qu'elle a essayé de tout faire. Elle a essayé de... Elle a essayé les musulmans, elle a essayé les étrangers, elle a essayé les immigrés, elle va partout. Mmh. Et là, elle commence à perdre les étrangers, elle commence à perdre les musulmans parce qu'ils se rendent bien compte en fait que
les gens se réveillent.
C'est pas compatible. Oui. Donc en fait, ils poussent le vice jusqu'à temps qu'ils épuisent leurs ressources. Mais là on sent que je pense qu'ils commencent à faire une dérive et ils le savent très bien. C'est pour ça que même les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sont de plus en plus lunaires. Là, c'est carrément un racisme assumé.
Tout blanc, tout moche que vous êtes.
Exactement. Ouais. Et quand on lui pose la question, ah non, mais c'est une blague, alors que ça aurait été Jordan Bardella.
Bah, justement, comment vous pris, tiens, cher monsieur Kev, comment t'as pris cette phrase?
Bah, honnêtement, très mal. Parce que le racisme anti-blanc existe bel et bien.
N'en déplaise à ceux qui le nient.
Exactement. Et je suis désolé, mais on aurait sorti, on aurait échangé blanc par toute autre couleur.
Bah, t'aurais dit si... tout noir, tout moche que vous êtes.
Exactement.
Mort,
et si en plus ça aurait été une personne de droite, ou si par exemple Jordan Bardella aurait dit ça, là ça aurait été la polémique du siècle.
Ah, ils auraient gagné l'euro million.
Mais parce que Jean-Luc Mélenchon, on excuse tout.
Mais il faut bien rigoler, il a dit. Il faut bien rigoler. Ouais.
Ça, c'est vachement drôle.
Non, mais c'est... de toute façon, je pense que Jean-Luc Mélenchon, déjà, il faudrait qu'il se regarde dans un miroir. Et il a oublié un petit peu qui il était. Et il se prend pour un maghrébin. Il n'est pas plus maghrébin que de barre au cul.
Il l'a dit lui-même.
Quoique, regardez, attendez. Pour le coup, quand un maghrébin naît en France, les gens vont dire, oui, mais vous êtes français, vous êtes né en France.
Mais c'est parce qu'il revendique.
Non, mais c'est vrai ou pas? Les gens, enfin lui-même, il dira, écoutez, il le dira pour peut-être certains avantages, mais en tout cas, il dira, je suis né en France, je suis français. Ils le font.
Bien sûr, mais après, t'as français de papier, français de cœur, français de culture.
Bien sûr. Mais Mélenchon, lui, il est né au Maroc, comme il est blanc, on va pas dire de lui qu'il est marocain.
Non, puis il est né sous protectorat français, donc... Détends-toi, Mélenchon. Ouais. Il dit, je m'enorgueillis d'être un maghrébin, calme-toi.
Mais c'est surtout qu'il se sente pas français, c'est une chose. Par contre, dans ce cas-là, qu'il arrête de bouffer notre pognon. Parce que c'est quand même avec le pognon des Français qui vit depuis 40, 50 ans, d'accord? C'est juste ça. Si tu craches sur la France, ne viens pas, par contre, sucer le pognon de la France.
Non, mais au-delà de ça, son parti, la France Insoumise, citez-moi un seul député France Insoumise qui a pas été inculpé pour des faits de drogue, de violence.
Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un basculement à France Insoumise.
Bien sûr.
C'est que les blancs de France Insoumise vont être eux-mêmes remplacés. Je sais pas ce que vous pensez.
Ça va être les premiers à se faire dégager.
Les premiers qui sauteront. Moi, j'ai en tête, je sais pas si vous revoyez cette séquence où vous avez Mathilde Panot avec Rima Hassan qui est en train de dire « Nous ne voulons plus de porte-parole ». En gros, elle est en train de dire « Nous n'avons pas besoin de toi, Peggy, la cochonne et tout le bordel » pour s'exprimer à notre place. Et on a Mathilde Panot qui est là.
Bah, Louis Boyard qui
s'est souri un peu jaune, quoi.
Le pire, pour moi, c'est Louis Boyard. Ça n'a pas été beaucoup dit.
Mais à Villeneuve-Saint-Georges.
À Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Louis Boyard est tête de liste. Et au final, il se fait putcher dans sa
voix. Mais oui.
Dans son propre conseil municipal, alors qu'il est quand même député.
Ils
essayent de sauver
utiles.
La face derrière, mais ça a crevé de rire. Ah la vache.
Mais en fait, malheureusement pour eux, ils sont les idiots utiles.
Ah bah, ça sera les premiers à sauter.
Tiens, Rima Hassan, on parle de Rima Hassan. Elle a quand même quelques problèmes en ce moment.
Elle se met bien. Il y a une petite casserole, il y a des petites casseroles au cul quand même là.
Qu'est-ce qui se passe, Rima? Tu fais pas les soirées de Pierre Palmade quand même.
Je l'ai fatigué.
Bien sûr, toujours présomption d'innocence. N'empêche que son... Je vais vous citer ce qu'a dit son avocat. qui a dit « L'avocat de Rima Hassan explique que si des traces de drogue de synthèse existent bien, il s'agit de la responsabilité du vendeur. » Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est le vendeur qui l'a forcé à acheter le truc?
Une fois, c'est jamais de leur faute, c'est jamais eux, c'est jamais...
Mais moi, je vais vous dire aussi une chose, c'est que moi, quand il y a eu l'histoire Pierre Palmade, je me suis renseigné de ce que c'était. Et j'ai un ami flic... qui m'a expliqué justement ce qu'était le 3MMC, c'est quelque chose qui se met dans les veines en fait.
Entendu dire, il y en a, parce que j'avais regardé un petit peu, apparemment ça peut se prendre en poudre ou se sniffer, non? Comment ça?
Alors, sur ce qu'il m'a raconté, parce que ce flic préfère les garçons, Et donc, du coup, et je pense qu'il doit faire des trucs comme ça aussi. Et donc, il m'a vraiment expliqué, ça se prend dans les veines et ça leur permet d'avoir vraiment de la vigueur, quoi. Mm-hmm. Pendant très longtemps.
Et donc, du coup, maintenant, c'est consommé par un peu tout le monde, finalement.
Et visiblement, ça m'a surpris, d'ailleurs. Mm-hmm. Parce que, voilà, c'est, visiblement, c'est une femme qui prend, mais visiblement, oui, ça
devient. Il y a une évolution de cette conso, alors. Ouais.
Mais mm-hmm. en fait, il faut savoir aussi une chose, c'est que... qu'elle consomme ça, bon, que les uns, que ceux qui sont homosexuels, je sais pas, consomment. Bon,
c'est leur
ça,
problème.
Ça, c'est leur problème. Ils sont adultes, machin. Mais ce que je remarque, c'est que de plus en plus, ces hommes et femmes politiques, et c'est corroboré par nombre d'articles, par des faits divers, etc., par l'overdose, par exemple, du conseiller politique de Monsieur Le Cornu, qui faisait aussi du chemsex. C'est que c'est quelque chose qui est très très répandu dorénavant auprès de cette classe politique. Et moi je me dis, mais attendez, c'est pas nous, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on peut dire des conneries, ça n'a pas de conséquences. Eux sont à la tête de l'État.
Ouais.
Enfin, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions, ils écrivent des lois.
Ils ont un devoir d'exemplarité déjà, oui, mais... et ils sont donneurs de leçons, alors que voilà.
Oui, mais il y a ça. Hier, oui. Mais ils écrivent des lois, ouais. Ils sont, je veux dire, ils votent des choses, ils votent des budgets, ils votent. Enfin voilà, ils dirigent le pays. Et on a en réalité, alors je sais pas ce que vous en pensez, on a toute une classe politique du plus haut jusqu'au plus bas. Vous imaginez que le gars de Le Cornu. Un mec, enfin je sais pas, un conseiller technique très important de Le Cornu va faire du chemsex chez le directeur financier Île-de-France. Ah mais vous voyez ce que je veux dire ?
C'est lunaire.
La soirée travail, c'est plus que c'était.
Oui, ouais. mais
ah, ça travaille dur. Hein.
Mais officiellement, ils étaient que deux. Mais vous pensez bien que dans cette soirée où le mec a fait l'overdose, il devait être le directeur de quel ministère. Enfin voilà.
Tout le monde s'est barré.
Voilà, ouais. Tout le monde s'est barré, forcément. Et donc, vous avez toute une classe politique et dirigeante, administrative, etc. C'est pas juste des artistes, des gens qui dirigent le pays.
En fait, il y a de quoi être inquiet parce que gens, ils prennent des décisions pour nous, alors qu'on pourrait considérer qu'ils n'ont pas tout leur jugement, puisqu'ils sont drogués.
Ça alterne ton discernement.
Je vais peut-être vous lire même un petit extrait d'un article du Figaro qui parle justement de comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Et alors, à l'Assemblée, champagne, bière, vin blanc, c'est le Figaro. Hein,
c'est nous qui payons.
Vin rouge et même verre de whisky ou de gin sont servis. Un moyen pour les députés qui vont siéger ce soir jusqu'à minuit. Minuit, c'est pas, ça va quoi. Jusqu'à minuit.
Ça va bien se passer, les gars, c'est clair.
Voilà.
Parce que le café, ça y est.
De se détendre et de passer un bon moment avant de reprendre le débat.
Bah oui,
bien sûr.
Plus les combats, un parlementaire à vous, plus les combats politiques sont forts, plus on passe de temps à la buvette. Imagine. Car ce sont des moments où nous avons besoin de générer du collectif.
Les mecs, au moment où ils votent, ils sont défoncés.
Ouais, c'est ça.
Je buvais. Écoutez, un autre parlementaire qui a perdu depuis, pendant la réforme de retraite, il dit « Je buvais 5 ou 6 verres tous les jours de la semaine. Je n'y allais pas pour me mettre la tête au carré, mais le fait est que tous les soirs, je me retrouvais dans un environnement où je le faisais. Et je faisais les comptes à la fin de la semaine en me disant « Tu as beaucoup trop bu. » C'est une forme d'alcoolisme mondain. Lundi, mardi et mercredi, encore un autre parlementaire sur le Figaro. Il y a les cocktails, les apéros. Vous enquillez tous les jours. Si vous faites vraiment le truc à fond, que vous allez à tous les repas entre Paris et la circonscription, vous ne faites pas gaffe, vous devenez alcoolique. Tiens, la députée LR de l'Aube, Valérie Bazin-Malgrat, dit « Beaucoup d'entre nous se trouvent dans des régions viticoles, nous sommes en quelque sorte obligés de faire honneur aux produits locaux. Ouais. »
tu peux goûter et recracher, hein, ça existe. Ouais. Hein.
Et donc, sa titre « J'ai perdu en espérance de vie, alcool, drogue à l'Assemblée nationale, des excès qui inquiètent. » C'est une enquête du Figaro, moi, je vous conseille de la lire. Voilà.
On n'est pas sur un cas isolé, non, mais, hein, on est
voilà.
Vraiment...
Donc moi, je vais vous dire, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait des Rima Hassan, qu'on ait des conseillers techniques de l'Elysée, de Matignon, directeur financier d'Île-de-France, etc., etc., qui en réalité sont sous coke, sous alcool, etc.
C'est complètement lamentable.
Ben moi, je vais vous dire, c'est connu depuis très longtemps. Gérard Faure, il le dénonçait dans son livre que Jacques Chirac, c'était un très très grand consommateur de cocaïne, etc. Et c'est un secret de Polichinelle que tout le monde sait déjà. Mais au-delà de ça, je vois pas pourquoi un policier en service qui a un taux d'alcoolémie un tout petit peu plus haut, il est viré instantanément. Un pompier, il est viré instantanément. Mais que tous les gens qui sont à la tête du pouvoir, qui prennent des décisions, qui peuvent changer l'économie, la sécurité des gens, ils sont sous alcool tous les jours, ils sont sous drogue tous les jours. Et je rappelle encore une fois que c'est l'argent public qui paye la drogue et qui paye l'alcool, qui leur permet de se mettre la tête au carré pour voter des lois lunaires. Pourquoi les lois ne sont pas réformées? Et déjà, casier vierge obligatoire pour tous les parlementaires, et test d'alcoolémie et test anti-drogue. Et si c'est positif, bah tu dégages et en plus t'es suspendu et t'as pas de salaire. Je trouve ça immonde. Mais encore une fois, c'est ceux qui font les lois, c'est ceux qui se droguent qui font les lois. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue.
Bah, moi, je me pose aussi la question, cher monsieur Kev, est-ce que les dealers prospèrent aussi parce qu'on a une élite qui consomme et qui du coup ferme un peu les yeux, quoi.
Ça c'est certain. C'est complètement certain et c'est ça qui les fait tourner. Donc, oui.
Mais le narcotrafic, il n'est pas prêt de s'arrêter puisque c'est eux les premiers consommateurs. Ils ne vont pas aller se tirer une balle dans le pied déjà pour commencer. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, le fait qu'ils consomment, j'ai envie de dire que c'est leur problème, quelque part.
Quand c'est dans leur temps libre avec
leur
argent.
C'est leur problème, etc. Mais c'est leur problème.
Ouais, mais
sauf que, voilà, c'est pas des personnes lambda, c'est des personnes qui prennent des décisions pour la France et les Français, et c'est là où c'est inadmissible. Donc ces gens-là ont un devoir d'exemplarité, et moi j'estime qu'effectivement, s'ils ne sont pas capables d'être sobres, ils doivent dégager. Mais au-delà de ça, la buvette ne devrait même pas servir d'alcool.
Allons plus loin que ça. On n'achète pas de la cocaïne chez l'épicier du coin ou à Carrefour.
Il y a un réseau souterrain.
C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent des réseaux souterrains.
Alors moi, j'avais aussi vu des témoignages anonymes de gens qui disaient qu'ils se faisaient livrer carrément à l'Assemblée. Hein. Ils se font livrer leur petite dose sympathique à l'Assemblée.
Rappelez-vous Yann Kerbat, là, député LFI.
Andy Kerbat, justement. Donc lui, il a fait Chemsex, etc. Et le narratif de la France Insoumise ensuite a été de dire « il est malade ». Alors oui, c'est un drogué, c'est une maladie. Dans ce cas-là, il n'a rien à faire s'il est malade, s'il est malade toxicomane, il doit dégager. Voilà.
Non, mais sa bonne excuse aussi, c'était s'il est tombé là-dedans, c'est... parce qu'il est homosexuel, tu comprends?
Ah, ben oui, évidemment. Donc, c'est bien connu.
Ça excuse parce que pour être dans le milieu, il faut que tu prennes apparemment.
Ah. Ouais, puis c'est quand même vachement raciste, quand même. Oui.
Homosexuel, visiblement, voilà, t'en es pas là, toi. Hein.
Ah non.
Justement, les homosexuels ne se droguent pas plus que les autres.
Bah non.
Je vois pas pourquoi.
C'est hyper stigmatisant, cette façon de gérer la com.
Tous les gars, c'est drogué.
De toute façon, c'est leur narratif. Ils arrivent toujours, quand ils ont un problème, à le détourner. Là, dans la drogue, dans le sac de Rima Hassan, c'est la faute du dealer.
Ah ben, c'est la faute du vendeur qui avait mis des substances.
Je suis d'accord, on a dit pareil de Pierre Palmade, il fait ce qu'il veut, il est sorti sous substance comme ça et il a tué un enfant.
Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais encore une fois, ces gens ne devraient pas prendre des décisions. Ils ont des postes trop importants au vu de ce qu'ils font de leur cerveau, en fait.
Il y a des gens qui disent oui, mais quand même, elle serait venue au commissariat avec ça. Mais moi, je veux dire.
Si elle est défoncée, elle n'a pas toute sa.
Que moi, je suis persuadé que ces gens-là, dès qu'ils arrivent à une sorte de responsabilité. C'est pas forcément LFI, je parle de l'ensemble des classes politiques. Lorsqu'ils arrivent à une forme de responsabilité, ils savent qu'ils ont l'immunité parlementaire. Exactement. Voilà. Ils savent qu'ils ont ça. Et ils se disent bon, c'est que des flics en face. Ils vont pas m'ennuyer. Ils vont rien me dire. J'ai l'immunité parlementaire. Et donc, ça va bien se passer, quoi.
Et en même temps, Mike, ils ont un peu raison, puisque, honnêtement, il va se passer quoi, là ?
Il va rien lui arriver.
Oui, mais là, je pense qu'elle perdra en image.
Oui.
Pour le coup. L'image, c'est important.
Antoine Léaumont a même accusé les policiers du commissariat d'avoir mis eux-mêmes la drogue dans le sac. Hein.
Mais c'était sûr qu'il y aurait ce narratif. On l'a dit direct.
Ouais. Moi, je me suis dit, ouais.
C'est la faute de tout le monde sauf d'elle-même.
De la police, elle serait même capable de dire que c'est un coup monté d'Israël.
Moi, ce qui est très révélateur de ce que tu as dit au début, c'est que le fait qu'il y ait des réseaux souterrains de drogue, etc., ça veut dire que les réseaux sont connus des politiques, ça veut dire qu'ils ne sont pas combattus des politiques.
C'est-à-dire
que les politiques sont complices des crimes. Parce que les réseaux de drogue, ça emmène énormément de violence, ça emmène du trafic d'armes, ça emmène tout ça. Et en fait, pourquoi il y a de la sécurité? Parce que le gouvernement laisse faire, parce que c'est des consommateurs de drogue et c'est des dégénérés.
Et parce que ça génère de l'argent aussi.
Ouais. Naïm Boukele l'avait très justement dit.
Bah oui.
ça brasse énormément d'oseille, quoi.
Et Louis, ah. Louis Boyard, qui a déjà été dealer, ça ne l'a pas empêché de devenir député. Hein.
Bon, on a un fichier S hein, aussi.
Oui.
Hein,
mais regardez, moi j'ai l'impression que sous Macron, enfin je ne sais pas, mais il y a 9 ans de Macron, mais on a l'impression qu'on a totalement vrillé de société, en fait.
Ah, c'est freestyle.
Bien sûr.
C'est, moi, je ne sais pas, j'entends tous les trucs, tous les jours quelque chose dingue. Et puis en plus, il y a une nouvelle génération de politiques. Alors, tu as parlé de Chirac. Bon, Chirac était ce qu'il était, peut-être que voilà, il faisait ce qu'il faisait. Ok, mais Chirac, s'il n'y a pas eu Gérard Fauré pour annoncer certaines choses, je veux dire, tu t'en seras jamais rendu compte.
Non,
non, c'était assez
difficile. C'est vrai ou pas?
Il y avait une tenue d'image.
Voilà, Chirac, voilà, c'était quelqu'un, bon, tu sentais que voilà, c'était un personnage, et tous ceux qui étaient autour aussi. Là, excusez-moi. Hein.
Ah ben, le vernis a craqué complètement, là. Hein. Je veux dire, ils sont enroulés au total.
Je suis pas d'accord. Moi, je pense justement que c'est extrêmement bien joué de la part de Macron. Parce que Macron, tout le monde le sait qu'il est impopulaire. Macron, il sait très bien lui-même qu'il fait n'importe quoi. Donc, en fait, je pense qu'il laisse le chaos s'installer dans l'Assemblée. Il laisse les députés et les filles faire n'importe quoi. Ça crée de l'esbrouf, ça crée du scandale, ça crée du débat. Et en attendant, on parle pas de lui.
Et
on parle pas des lois qui passent, on parle pas de toutes les lois liberticides, on parle pas de tous les arrangements qu'il fait avec les autres pays. Je pense qu'il est assez intelligent là-dessus. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, parce que avant, comme tu le dis, sous Chirac, etc., il y avait pas autant d'esbrouf, il y avait pas autant un député qui faisait ci, un machin qui faisait ça, autre qui se drogue, l'autre qui tape sa femme, où ça se savait moins. Là, tout se sait. On garde des petits dossiers juste avant les présidentielles, on lâche tout sur un candidat dénommé, etc. Moi, je pense que c'est très très bien fait.
Après, en plus, c'est triste à dire, mais tous les jours, on entend tellement de scandales, de trucs dégueulasses, on s'habitue.
Ah, tu t'immunises.
C'est ça, en fait,
avec,
qui est
avec
triste.
Les réseaux sociaux,
on
en fait, aussi.
On s'habitue à ça. Et ouais. Les gens ne sont même plus choqués.
Mmh. Bah, regardez, la dernière, Madame Pégard, ministre de la Culture, avec Monsieur Epstein. Bon, évidemment, elle a dit qu'elle avait oublié.
Elle a oublié cette photo,
j'avais piscine.
Mais elle a... J'ai appris que, en fait, ce jour-là, elle avait privatisé pour Woody Allen et Jeffrey Epstein le château de Versailles. C'est-à-dire que ce jour-là, vous ne pouviez pas visiter le château de Versailles parce que Madame Pégard le faisait visiter en personne.
On se rend compte de l'argent que ça coûte.
Mais évidemment, à Monsieur Epstein et à Monsieur Woody Allen. Vous imaginez l'importance
et
de ces gens,
tout
quoi.
Tout ça avec notre argent.
Mais elle a oublié.
Mais elle a oublié qu'elle avait fait tout ça, évidemment.
La pauvre a trahi
trop. C'est marrant, moi je privatise un truc et je m'en souviens 20 ans après, mais enfin...
Et privatisé, mais Château de Versailles, c'est pas privatisé.
Non, mais on est d'accord,
Radio Courtoisie.
C'est quand même symbolique. On prend la plus grande place des rois connus dans le monde et on fait venir les plus grands pédophiles de la planète.
Mais regardez, est-ce que quelqu'un s'est insurgé en disant quand même, Madame Pégard, est-ce que quelqu'un au gouvernement, dans l'opposition, l'a dit, question au gouvernement, Madame Pégard, qu'est-ce que vous faisiez avec Jeffrey Epstein?
On en revient à ce que tu dis. Ils sont tous drogués, ils sont tous les, ils ont tous des dossiers les uns sur les autres. C'est pour ça que tout le monde affirme.
Bien sûr.
Vous croyez qu'il y a une opposition dans ce pays? Vous croyez qu'il y a une opposition dans ce pays?
Politique?
Ouais.
Non, il n'y en a pas une réelle. Je pense
ceux qui en ont un tout petit peu, ils sont muselés, ils sont écrabouillés. Je pense Éric Zemmour qui faisait bien le taf là-dessus, il s'est fait détruire.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que justement, tiens, ça permet de revenir sur la conversation, est-ce que justement. L'opposition, ça peut être des gens comme vous qui brassez énormément de monde sur les réseaux sociaux et qui êtes des citoyens, voilà, qui est patriote et qui dit voilà, il y a plus d'opposition dans ce pays, il y a pas d'opposition politique. Nous sommes une opposition à ce système mafieux, dégénéré, etc.
Alors évidemment, et c'est pas pour rien que Emmanuel Macron et sa clique veulent museler les réseaux. Ils vont le museler comment? Avec, soi-disant, le prétexte de protéger les gamins de moins de 15 ans, avec l'identification, etc. Ça va être une façon aussi d'avoir une main mise sur nous. Nous, on subit la censure sur les réseaux régulièrement. Et bizarrement, il y a des trucs mais dégueulasses qui passent. Nous, on va les signaler, on va nous dire qu'il n'y a pas de problème avec cette vidéo. Ouais. Tu vois, enfin, et ça c'est régulier. On a des comptes qui sont en péril, qui sont en danger parce que on parle trop. L'abbé récemment a un de ses comptes qui était quand même un compte assez important qui a sauté. Il a dû tout redémarrer à zéro. Ouais.
Banni définitivement. Sans
Grise également,
Grise
un de nos autres collègues aussi. Ouais. Et ça c'est régulier. Et
Grise, le français. Ouais. Il est menacé par son entreprise d'être viré.
Alors c'est fait, ça y est, c'est officiel.
Il a signé résidence 2 mois et au bout de son contrat, il est licencié.
Ils l'ont licencié. Ouais.
Donc Grise le Français, un autre militant politique qui aime la France, un qui monte le drapeau français, a été viré par son entreprise parce que son entreprise a découvert qu'il aimait trop la France.
Sans aucune raison en plus, hein. Voilà. je le concède. Parce Kevin est dans les ressources humaines, donc il connaît très bien les lois. On a échangé un peu là-dessus pour savoir. Au début, il reprochait qu'on voyait le logo de l'entreprise. Bon, là, d'accord, je peux dire c'est attaquable.
Qu'il était en uniforme de travail,
machin. Il a supprimé toutes les vidéos à leur demande. Et la semaine après, ils l'ont quand même licencié. Donc, il n'y avait plus... En fait, il ne sait même pas pourquoi. Ils n'ont pas donné de raison.
Ça reste flou. Ils nous avaient montré un peu le courrier. Ça reste soi-disant parce qu'il aurait fait des vidéos en uniforme.
Ouais, donc on a, cher monsieur Kev, un système qui a peur visiblement justement de cette opposition et qui essaye par tous les moyens de les faire virer, de leur faire perdre de l'argent, ouais. Etc.
Mais complètement. C'est... Oui.
Ouais, c'est vas-y.
Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Ils essayent de censurer comme ils peuvent pour garder le monopole, pour faire peur, pour justement que... Ben, ça nous fasse taire.
Je pense que c'est l'inverse.
C'est-à-dire, cher
Je pense pas que c'est pour leur faire peur, c'est parce qu'on leur fait peur.
Oui.
C'est justement ça. On a que 4 mois d'existence, on est déjà connu de toute la droite. La France Insoumise envoie ses députés dans nos manifs pour nous faire taire. Donc je pense qu'on a un pouvoir que je pense qu'on n'a pas encore pris conscience. Et je pense que c'est ça, ils ont peur de nous. Parce que pour que la France Insoumise ramène tous ses sbires et tous ses chiens pour nous agresser... Et que la droite accepte de nous recevoir et de nous parler, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui
s'est passé. Quelle droite vous reçoit ?
Ah bah là, on a été reçu par Monsieur Dupont-Aignan. On a fait une vidéo d'ailleurs qui est sur la chaîne YouTube des Citoyens Patriotes. On a d'autres noms qui arrivent. Je peux pas les dire parce que c'est pas sorti.
Oui, pour l'instant, c'est rien d'officiel.
On a eu des accords tacites, mais ça va se faire. Et là, toute la droite commence à s'intéresser à des gens comme nous qui veulent rassembler parce qu'ils savent la portée qu'on a. Et nous, on est l'image du peuple et on est, je pense très honnêtement, qu'on est le lien direct entre le peuple et eux. Et les gens ont plus confiance en les politiques. Et je pense qu'ils se retrouvent en nous à travers les réseaux. Et je pense qu'on porte leur voix à travers ça.
Mais cher Magelia, ça c'est nouveau à droite. Enfin, je parle des partis politiques. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui les partis politiques de droite méprisaient un peu. Et là maintenant, visiblement, ils se disent bon, quand même, on a eu tort.
Je pense qu'effectivement, on va pas se mentir, il y a pas mal de gens qui nous prenaient pour des bouseux. Hein. Clairement, ils font un peu de bruit sur les réseaux, sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on fait des millions de vues tous les mois et que la portée qu'on a, ils ne l'ont pas. C'est aussi clair que ça. Et là, ils commencent à se dire, il ne faudrait peut-être pas trop qu'on les ignore non plus. Donc, bizarrement, là, le vent est en train de tourner et je pense que Matt, les gars ont raison. Ils ne peuvent plus trop nous ignorer, ils sont obligés de faire avec. Et du coup, à un moment donné, ils vont être obligés de composer avec nous. Mais, là, par exemple, ce qui est arrivé à Grise, ça n'a rien à voir avec la droite. Mais en fait, les méthodes d'assassiner quelqu'un de façon financière ou juridique, c'est des méthodes qui existent depuis longtemps. Ça.
Vous savez, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle... Baptiste Marché,
qui est parti au Texas.
Ouais.
Qui est parti au Texas et qui, à la sortie d'une église, avait cassé la gueule à un mec.
Même pas, il avait mis une claque.
Il a mis un coup de poing.
Bon, en même temps, c'est un frigo. Donc,
il s'était battu avec un gars et donc, du coup, là, une vidéo était sortie. Et il m'avait appelé, il m'a dit oui, j'ai perdu pour mes sponsors, machin. Donc on a fait un genre de petite conférence, ça avait pas mal buzzé. Et il m'avait dit, à Reconquête, ils n'ont jamais voulu de moi parce que les types comme moi ne sont pas représentés, c'est que des gens de la bourgeoisie parisienne. Et il m'avait regardé cette anecdote où il y avait une soirée TVL et Zemmour vient le voir, il prend une photo avec Zemmour et puis il y avait un conseiller de Zemmour qui est arménien... sur frontière, je ne me rappelle plus de son nom.
Chnorokian.
Je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, voilà, il est arménien et sur frontière, donc vous savez qui c'est. Et qui a dit, non, mais attendez, c'est Baptiste Marché, c'est pas bien, un identitaire. Ne prenez pas cette photo.
Je pense qu'il changera d'avis maintenant.
Peut-être qu'il changera d'avis, mais En fait, tous ces types de la droite, tous ces grands politiques de la droite, en réalité, ils ont tellement peur, et Zemmour compris, hein, ils ont tellement peur de leur image, de leur ceci, de leur cela, et puis ils sont tellement aussi accoquinés avec le parisianisme et tout, c'est que dès qu'ils voient des gens de province qui font des vues, qui ont beaucoup de monde, qui sont suivis, eh ben ils prennent ça par le mépris, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est ce que je pense. Ça, ouais.
Alors que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les gens nous écoutent énormément, nous. Parce qu'on leur parle comme on parlerait. Enfin, nous, on sait d'où on vient. On est des gens tous modestes, hein, de toute façon.
On est naturel.
Voilà. On n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas que.
Et puis les politiques ne sont pas écoutés.
Mais
moi,
non,
je fais
mais
venir
les
des politiques. Moi,
ben
quand
oui,
je fais venir un. Je le fais plus, hein. Je le fais plus. Parce que quand je fais venir un politique. Quoique ici, ça peut marcher. Mais à Géopolitique Profonde, je fais. Il y a 300 personnes qui vont regarder, quoi.
Mais parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, le retour que j'ai, je pense que vous avez la même chose autour de vous les garçons, c'est que
c'est trop compliqué.
Les gens, ils ont l'impression de se faire endormir, on n'a pas envie de les écouter, ils sont chiants et on comprend rien parce qu'ils font exprès de prendre des grands
mots,
détours
ouais,
au lieu de répondre directement.
Ils marchent sur des œufs en permanence, ils veulent pas, ils veulent prendre aucune position.
Ben voilà, parce que c'est leur
RN,
image avant tout.
Même au RN, même à Reconquête.
Ah bah de toute façon, ça s'entend. C'est toujours oui, c'est en fait c'est très cousu de fil blanc.
Quand on leur pose une question, c'est pas oui ou non. Ben
parce que je pense qu'ils pensent tous à leur carrière, etc. Mais ça commence à changer. On voit qu'il y a une dynamique qui est en train de se faire. Ouais. Parce que je pense qu'ils commencent à comprendre qu'ils ne peuvent, peuvent plus nous ignorer.
De toute façon, on n'est pas très très loin des élections présidentielles. Hein, donc ils savent que c'est la dernière ligne droite et qu'il faut que soit on s'allie.
Vous êtes avant tout sur quel réseau?
Tous les réseaux.
Partout.
Oui, tous.
On est comme la misère.
On est
partout.
Ouais. On a des
Facebook, TikTok, ouais. YouTube,
Instagram. Ouais. X également.
D'accord.
Voilà, donc on est vraiment partout.
Et quels sont les réseaux aujourd'hui que justement ces hommes et femmes politiques n'ont pas? Parmi ceux que vous venez de citer.
Je pense qu'ils sont partout aussi, ouais, quand même.
Ouais, oui, non, mais quand ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de...
D'impact?
D'impact, ouais.
Ah bah de toute façon, ils nous l'avaient dit beaucoup, tous ceux qu'on a rencontrés, ils nous ont dit, est-ce que vous avez X et YouTube? Eux, c'est vraiment les principaux. Ils regardent que ça.
Ah ouais,
sur Facebook, ils y sont très peu. Sur Instagram, ils y sont très peu. Sur TikTok, ils y sont quasiment pas. Ouais. Bon, tu me diras, TikTok, c'est pas très grave. Mais moi, je pense justement qu'ils font une erreur. C'est Instagram, ouais, et Facebook où les gens sont, où le, ouais, peuple est. Moi, c'est... Par exemple, moi, c'est mes réseaux de prédilection. C'est là que je cartonne.
D'accord. C'est Instagram et
Instagram,
pour ma part,
Facebook.
Oui. Mais je pense que tout le monde, on fait nos meilleurs scores là-dessus.
Ouais.
Bah, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être partout. Il faut vraiment être partout. Et ça, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ils voient bien que c'est nous, finalement, qui sommes dans la bonne direction. Et c'est pour ça que le vent tourne un peu. Et
les chiffres parlent, de toute façon.
Voilà. Les chiffres, ils parlent. Hein. Quand on fait nos bilans tous les mois, on se dit oui, quand même.
Alors, j'ai oublié le Bobino. Le Bobino!
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Deuxième partie de l'émission des citoyens patriotes Magella, notre ami l'abbé et monsieur Kev, le Bobino, soutenez-nous, continuez à nous soutenir parce que c'est vous les patrons de Radio Courtoisie, c'est vous les chefs, c'est vous qui par vos dons faites que d'abord nous existons mais nous sommes indépendants surtout parce que lorsqu'il y a des annonceurs, des publicitaires, et ben c'est eux qui choisissent la ligne, ce n'est plus vous. Et là, aujourd'hui, c'est vous qui le faites. Alors, j'ai des questions. Y a-t-il une manifestation contre la pédophilie aujourd'hui? Quelle heure et où?
Oui, 14h.
République. Et vous y serez?
Oui, bien sûr.
Voilà, pédocriminalité, il faut en parler. Je pense qu'il y aura du monde.
Ouais. On est venu pour ça. Et là, moi, je vais faire un appel général. Il n'y a pas de gauche, de droite, de machin, je ne sais pas quoi. Là.
C'est pour les enfants.
Là, on s'en fout. Les pédophiles, ils sont partout. Moi, ça ne tiendrait qu'à moi. Je leur ferais bouffer leur engin et je les ferais brûler en place publique.
À l'ancienne.
D'accord, voilà, à l'ancienne. Hein. D'ailleurs, on avait fait un podcast avec l'abbé et avec Benas.
On a bien rigolé.
Où on a parlé des
méthodes
ancestrales qui, peut-être, serait bien de revenir justement pour ce genre de...
On va parler français.
Il y avait le coffre avec des pics, par exemple, c'était pas mal ça.
Ouais, il y avait l'écraseur de tête, le rouet, il y avait des choses intéressantes.
Le rat dans l'anus.
Ils avaient de l'imagination.
C'est pas mal ça.
Voilà. Non, c'était festif.
Ouais. Et aujourd'hui, il est important...
Revenons à ça.
Mais, pour les pédophiles, moi j'aurais zéro
Moi, j'aime bien.
Mais ouais. ça va faire tomber les masques. Là. Si la gauche fait une contre-manif pour nous traiter de racistes, alors qu'on vient pour manifester contre les pédocriminels et les enfants suppliciés, là, il y a vraiment une maladie mentale.
Bah, la gauche n'est pas à une connerie prête. Hein.
Oui, par contre, je vais être claire avec eux. Si ils viennent et font un contre-rassemblement alors que nous sommes là pour lutter contre la pédocriminalité, je considère qu'eux-mêmes sont complices et cautionnent les pédophiles.
Exact.
Quand on voit en plus le scandale en ce moment des périscolaires à Paris...
L'affaire Epstein.
Là, on est quand même
Non mais moi ce qui me rend fou, même si Dati est nulle, bon Dati elle est nulle, hein, faut dire les choses, mais quand même, elle a pas embauché 75 périscolaires pédocriminels.
Sur 200, il y en a 75.
Surtout, Grégoire a participé à les embaucher et il a été réélu. Putain, les Parisiens, réveillez-vous, bordel.
Il était au courant du scandale depuis 2015.
Ah bon, on l'a traité dans un podcast, Benas avait fait l'actu de ça, putain c'était à vomir. Hein. Ah, à vomir.
Et le gars est devenu maire de Paris.
C'est fou, hein.
Non mais c'est soit les gens sont complètement cons, soit ils ont pas de
mémoire. Moi je vais vous dire. Moi je fais des reportages dans Paris où je pose la question aux gens dans des quartiers un peu de gauche. Hein. Ça me fait marrer d'ailleurs, mais j'ai des réponses. C'est
toujours lunaire, hein, de toute façon.
C'est hallucinant.
Ah, tu te demandes s'ils vivent sur Terre, les gens.
Ah mais oui. Ils ont les lunettes roses, tu vois. Ils ont des lunettes roses.
Ils ont un petit voile.
Et si demain, je sais pas, ils se feraient agresser, violer, ou j'en sais rien.
C'est peut-être qu'ils l'avaient mérité.
Par une chance pour la France, c'est parce que c'est pour.
Oui, mais c'est pas mérite en fait. C'est de ma faute. J'étais sur son chemin.
Non, mais je suis privilégié comparé à lui, donc c'est normal.
Rappelez-vous le gars là qui a quand même vu, je crois, un de ses mômes tué au Bataclan et qui a écrit « Vous n'aurez pas ma haine ».
Ouais, mais bah moi je peux te dire que j'ai pas perdu quelqu'un au Bataclan, mais ma haine,
le papa de Matisse qui est assassiné par un Afghan, le mec tu le voyais, non mais faut pas faire de clivage, ton fils il est sous terre en attendant.
Alors sur le vous n'aurez pas ma haine, on en est revenu quand même de ça, heureusement, hein, là aujourd'hui on a des familles qui quand même sont,
est-ce que tu sais quel est l'arrondissement qui le vote le plus à gauche de France?
Arrondissement, il y a le Bataclan.
Voilà.
Là, on m'avait dit.
Donc, je crois pas que ça revienne.
Il y a quand même des gens qui en sont revenus, mais vraiment, c'est stop. Il y en a ras-le-bol de tendre l'autre jour.
Puis il y a un fait reste un fait, je comprends pas.
Exactement.
Regardez notre ami Patrick Jardin, qui a vu sa fille assassinée. Comment il est brocardé. Il est le seul qui a couvert les
yeux. On l'a traité de fasciste.
Mais oui. Alors qu'il a perdu sa fille dans des circonstances terribles.
Non, mais et puis dire que c'était des islamistes, c'est raciste. Mais les gars, moi j'ai entendu les enregistrements vocaux qui sont sortis des mecs qui sont enregistrés au Bataclan, des terroristes. Mais c'est incroyable. Les mecs, ils disent on va tous vous crever. Puis il crie à la Wakbar, il se fait péter. Et c'est raciste de dire que c'était des islamistes. C'est vrai, c'est un fait, c'est factuel. On donne pas notre avis, on donne une info.
C'est un fait, exactement.
Tiens, un commentaire d'auditeur. Bonjour, la Macronie et la LFI sont les deux faces d'une même pièce.
Je suis pas d'accord.
Ah bon ?
Non.
Quelle est la différence entre les deux, tiens ?
Moi, je pense que la LFI est la poupée utile de la Macronie. Je pense pas que c'est les mêmes, je pense qu'ils se servent très bien d'eux. Justement, exactement pour ça qu'il ne fait rien du tout.
Oui, mais regarde, je vais prendre un exemple. Tiens, concernant l'immigration... malgré ses airs de en même temps machin, c'est sous Macron où l'entrée, il y a le plus d'entrées en France.
C'est comme tu le dis, si tu légifères sur l'immigration, qu'il y a de plus en plus d'immigration, tu donnes raison à LFI, tu crées un clivage à la droite et ça crée un clivage grosse droite qui est encore plus intense et Macron se met en fait.
Oui, mais tu vois, LFI, bon, ils aiment l'immigration pour leurs raisons.
C'est électoraliste.
Ils peuvent pas justifier en plus. Hein.
Mais Macron aime aussi, alors pour d'autres raisons, hein, peut-être de mœurs. C'est possible, hein.
Des jeunes.
Mais surtout par capitalisme, je pense.
Oui, et encore que c'est pas vrai, parce que
capitalisme,
ça crée pas des vases communicantes économiques de faire venir des gens assister.
On est d'accord.
Vous connaissez un peu Paris ou pas ?
Alors, On commence à connaître puisqu'on vient régulièrement.
Bon. Mmh. Alors, à Paris, par exemple, aujourd'hui, un électeur de Macron ne descendra jamais de chez lui pour faire 100 mètres et s'acheter à bouffer. Il va se faire livrer par un Uber Eats.
En Uber, mmh. C'est pour ça qu'il faut un immigré.
Donc du coup, il faut un immigré.
C'est important, bah, évidemment.
Non, mais il y a plein de jobs comme ça. Qui aide un électeur macroniste. Il ouais. faut dire les choses.
Et encore que c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'il faut savoir, j'ai des membres de ma famille qui ont été Uber Eats. Il m'a dit, j'ai dû arrêter tellement il y avait d'immigrés qui arrivaient d'Afrique qui parlaient pas très bien français, ils se sont tous mis à faire ça. Il dit, le marché était tellement saturé, je pouvais plus bosser.
Bah, c'est
enfin,
ça.
Ils ont tué leur propre marché, en fait. Donc c'est pas. J'entends tous les gauchistes qui disent, vous êtes bien contents quand vous avez des immigrés qui vous servent dans les restos ou qui vous emmènent votre pain. Non, c'est pas vrai. Vous avez forcé l'immigration pour détruire les postes que les Français avaient.
Et au-delà de ça, je vais dire, je vais inviter les Parisiens et les gens qui sont un peu dans leur entre-soi, dans leur petit quartier.
De sortir à Barbès à 22h.
Et même pas, non, je vais les inviter à venir dans nos petites villes et villages. Parce que moi, quand j'entends, oui, ce sont les immigrés qui font les boulots difficiles,
c'est
etc.
Vrai,
moi,
vrai.
J'ai mon conjoint qui travaille dans le bâtiment. Tous ses collègues, et dans le bâtiment, c'est quand même des métiers très difficiles, où les mecs à 50 balais, ils sont usés et ils ont encore 10-15 ans à bosser, d'accord ? Moi, tous ces collègues, ce sont des Blancs, des Français. Sur les chantiers, il y a quelques étrangers, certes, mais quand vous venez, quand tu viens en province, faut qu'ils sortent de Paris,
oui,
parce qu'en province,
chose,
partout, c'est des Blancs qui sortent. Hein.
Ça, c'est quelque chose à dire aux gens. Parce que les gens, comme ils sont dans un tropisme parisien, rive gauche surtout, eh bien, ils sont persuadés que dans toute la France c'est que ça se passe comme ça.
Non, moi j'ai ça fait 20...
toi par exemple t'es dans quoi?
Moi je suis artisan maçon tailleur de pierre. Donc ça fait 20 ans que je suis sur les chantiers, je peux vous dire que même moi j'ai mon entreprise depuis 14 ans, des ouvriers, j'en ai une part, j'ai travaillé avec des milliers de personnes, j'ai jamais vu un immigré, jamais.
Donc,
j'ai
déjà tailleur de pierre.
Ouais, mais comme maçon, comme carreleur, parce que quand tu fais des chantiers, tu gravites avec tous les corps de métier. Si, j'ai déjà vu beaucoup de Turcs qui montaient des maisons, par contre, ils sont très très bons.
Un peu de portugais aussi.
Mais j'ai jamais vu d'immigrés qui parlaient mal le français. Et c'est ce que justement on disait avec Benaz dans un podcast la dernière fois. C'est des conneries de gauche de penser qu'on peut embaucher un immigré qui parle pas très bien le français, qui est pas. Personne l'embauchera. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Moi, jamais de la vie, j'embauche un mec qui parle pas très bien ma langue, parce qu'au niveau des consignes de sécurité, c'est pas possible d'être à 10 mètres sur un échafaudage avec lui et il comprend pas ce que je lui dis. C'est trop dangereux et personne le fera et personne aura les facultés mentales qui vont le pousser à faire un truc aussi con.
Bah, en tout cas, dans nos villes à nous, dans nos petites villes. Moi, dans la ville où j'habite.
N'importe lequel, ça
mais
coûte
oui.
trop cher s'il y a un accident.
Non, mais là, parce qu'on est. Ils sont dans leur entre-soi parisien. Mais chez nous, mais qui ramasse les poubelles, c'est les Blancs. Mais moi, là où
parce
je vis...
qu'ils se concentrent sur les grandes villes.
Sans déconner, quoi.
Quand bien même, c'est pas les Blancs. Ça peut être des Noirs,
oui,
des Arabes,
voilà,
etc.
Mais
des gens intégrés qui parlent le français et qui bossent en France. Pas des mecs qui comprennent un mot sur deux et qui sont là de manière un peu flottante. Non, ça existe pas, ça existe pas.
Ça existe plus du côté de Marseille, peut-être du côté de Lyon. Moi, je sais que j'ai étudié du côté de Marseille. Et,
dans le bâtiment, j'entends.
Oui, 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 dans le bâtiment.
Moi, c'était majoritairement des Portugais, des Polonais. Mais c'est concentré dans ces agglomérations-là. Après, toutes les petites villes.
Oui, parce que Paris, faut dire les choses, les amis. Paris, c'est à part par rapport au reste de la France.
Ah, tout à fait.
Et nous, on s'en aperçoit
Paris,
quand on revient ici.
Complètement.
Paris, c'est pas la
France. C'est quoi le différentiel? Tiens, dites-nous.
Bah, même la mentalité. Enfin, nous, on découvre tout ça. Déjà, en fait, Paris, c'est grand et c'est petit. J'ai l'impression que tout le monde se connaît. Les gens, ils se connaissent tous. Donc, nous, ça nous fait un peu bizarre, en fait. Enfin, mais on commence
qui
à s'acclimater. Ben, tous les gens, là. C'est vrai que nous, on voit, on rencontre un tel connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel, en fait. J'ai l'impression que les gens fonctionnent que par réseau. Ouais, c'est ça.
Oui, c'est que ça. Hein.
Si tu veux, par exemple, avoir un contact avec un politique bien spécifique, en fait, on s'est aperçu qu'il fallait passer par un tel qui connaît comme ça.
Comme tu l'as dit,
c'est du réseautage, en fait.
C'est de l'entre-soi, mais au-delà de ça, Paris, je pense que c'est un pays à part de la France.
Ah oui,
ah,
complètement.
Oui.
En fait, tout va très vite.
Ça fonctionne pas comme chez nous, ça rien.
Tout va très vite, puis ça s'éteint jamais, ça s'arrête jamais. Donc les gens bossent. En fait, ils sont concentrés dans leur vie. Les gens font deux tafs parce que l'immobilier est ultra cher. En fait, personne ne voit rien, en fait. Et je pense que c'est pour ça que les gauchistes, ils sont des œillères et ils ne voient pas tout ça. Ils sont dans le boulot, ils ne s'arrêtent jamais. Ah, ton image, toi, t'es un robot, tu t'arrêtes jamais. Mais tout le monde est comme ça. Tout le monde est. En fait,
on fonctionne pas comme ça chez nous, c'est différent, en fait.
Et les gens, tu leur dis, tu sais qu'à Paris, il y a un monument du 14e, il y a celui. Ah ouais, ouais.
Mais j'ai pas le temps, j'ai jamais fait.
Tu sais même pas ça. En fait, tellement ils sont bloqués dans leur vie parisienne. ils s'aperçoivent de rien.
Mais c'est vrai, parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui a vécu 13 ans à Pontoise, qui a été à Paris, machin. Il a rien visité sur Paris, il n'avait pas le temps. Il bossait dans les palaces de luxe, il arrêtait pas, il faisait 50, 60 heures par semaine. Et puis,
allez, Mike, dis-nous quel monument a été visité.
Dernièrement, ça fait longtemps.
Barbès.
Oui, mais nous, c'est pas pareil. C'est parce que nous, comment dire, on lance des médias, tu vois, on a ouvert un nouveau studio, tout ça, donc on peut pas être, et pas plus, on n'est que deux.
Il y a une très belle église à côté des studios de GPTV. Ouais. On est passé à côté, elle est magnifique.
T'as vu? Mais moi, je suis tout seul en semaine, donc j'ai un réalisateur et je suis tout seul. Donc non, je suis obligé de...
Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'effectivement, la vie parisienne, ça n'a rien à voir avec la vie de chez nous.
Ouais,
justement, parce que moi, je ne veux pas juste être cantonné au studio, c'est pour ça que je fais mes reportages et que j'essaie de faire un maximum de terrain, parce qu'en effet, là où t'as totalement raison, c'est que lorsque tu restes, si je fais que du Courtoisie le samedi, du GPTV en semaine et tout...
Ouais, t'es dans ta bulle.
Voilà, je suis dans mon truc, je rentre chez moi et je fais mes soirées, parce que je fais aussi des soirées et je me dirais, mais en fin de compte, c'est génial la vie, quoi. Mais vraiment, hein.
Ah, mais tu t'aperçois de rien en fait, tu flottes dans le cosmos parisien.
Chacun dans sa petite bulle,
c'est
clair. Voilà, quoi.
Et c'est pour ça que j'ai voulu par exemple lancer une série documentaire qui s'appelle Paris en faillite.
Bah, j'ai vu, c'est triste quand même.
Et là, c'est voilà.
Alors là, par contre, où ça se rejoint, c'est que dans nos villes, par contre, les centres-villes crèvent également.
Ah, plus en plus.
Moi, je suis dans une ville qui fait à peu près 60 000 habitants.
Ce qui est beaucoup.
Le centre-ville, il est cuit, il est mort. Il y a toute une rue où tu commences la rue et tout est alloué,
Paris, c'est pas que le centre-ville, hein, c'est tout Paris. Hein.
Ah oui, bah, non,
mais Paris, alors, c'est tellement cher que... Bon.
La ville dont
je... Et même les Champs-Élysées. Hein. Ouais. Même les Champs-Élysées.
Nos magasins, nos commerçants sont en train de crever.
Le prix des loyers sur les Champs-Élysées, c'est combien, t'imagines? Avec les taxes qu'on paye, moi je suis bien placé pour le savoir, ça fait 14 ans que je me fais éclater. Moi je vois dans ma petite campagne, j'imagine même pas à Paris, un mec qui a un resto Champs-Élysées, il paye combien, 20 000 euros de loyer par mois?
Peut-être.
Imagine le CA qu'il faut sortir.
Non mais peut-être, mais les Champs-Élysées, t'as tous les touristes du monde entier, tu peux leur faire bouffer à 100 balles le plat si tu veux.
Non mais ce qui prouve
marche pas quand même.
Bah, ce qui prouve que le rapport économie-tourisme est pas bon. On est beaucoup trop taxé par rapport à ce qu'on peut générer. Ça c'est des maths, hein. Ouais.
Je vais vous dire quelque chose, c'est que je pense que 2026, avec là l'estocade de l'Iran et de l'essence chère, parce que il faut savoir une chose, c'est que l'essence là à 2 et quelques, c'est de l'essence achetée il y a 2-3 mois,
ouais. Mais oui,
c'est du vol, hein.
Qui était à 1 euro et quelques. Ouais. Voilà, à la base.
Le bénéf qui est fait, c'est
oui, mais là,
sidérant.
Oui, mais là, l'essence qui va arriver.
Oui.
C'est l'essence qui va être achetée à 2 euros et quelques.
Donc là, ça veut dire que
ça va passer à 5 euros le litre.
Alors que le détroit d'Ormuz n'a jamais été fermé. Hein. Les gens, à TF1, ils ont dit des conneries pareilles. C'est pas vrai, ils ont jamais fermé. L'Iran a mis un péage et ils faisaient payer les bateaux comme Trump l'a fait. Donc dire ils ont tout bloqué, c'est pas vrai. Ils peuvent pas bloquer, ils auraient bloqué l'économie de leur propre pays.
Mais d'un autre côté, moi je vais vous dire une chose. Je pense que on a besoin de ce coup de fouet.
Bien sûr,
de 4, même de 5 euros le litre. Je dis sincèrement, je suis désolé.
Si ça peut faire bouger les gens.
Mais je le dis, hein, alors ça va nous... moi-même, je dois me serrer la ceinture, je vais peut-être manger que des pâtes et tout, mais c'est pas grave, j'y suis prêt à le faire. Ou manger que des pommes de terre. D'ailleurs, beaucoup de plein pommes de terre, c'est très très bon. Moi, je suis prêt à tout ça. Mais je le dis très sincèrement, hein, je suis prêt à même à des sacrifices de tout ce que vous voulez.
Si ça peut réveiller les gens.
Mais vraiment. Hein.
Je suis d'accord.
Bah, tu te dis que les gilets jaunes sont sortis dans la rue, que c'était à 1,50. Là, on est presque au double.
On est presque au double. Parce que regardez, il y a Epstein, il y a les faillites multiples, il y a les pédocriminels de la ville de Paris, il y a tous les types qui se droguent, les machins, l'insécurité, ce que vous voulez, et les gens ils sont là.
On peut plus, je pense qu'on peut pas faire plus.
C'est aussi pour ça que nous on essaye de mettre tout ça en place, parce que tout le monde est toujours en train de se plaindre.
Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens?
Ben, qu'ils en ont marre de cette situation en France, qu'ils n'arrivent plus à vivre, ils n'arrivent plus
et
à manger. Mais après,
on vous soutient, on est avec vous, on est derrière vous. Mais moi, je peux pas bouger parce que j'ai piscine. Mais moi, c'est vrai que des fois, je perds un peu patience.
C'est ça qui est un peu fatigant.
Non, mais par contre, t'as raison. Il y a un moment donné, c'est bien beau de nous soutenir, mais il faudrait aussi que tout le monde se bouge.
Moi, je vais te dire une chose. Par exemple, j'ai des collectifs qui m'appellent, me disent ouais, on fait une manifestation, machin, et j'y vais de moins en moins. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'y vais, ils sont chauds, hein, ils sont chauds patates. Et puis je leur dis, bon, bah, on fait le reportage, dites un truc là sur Macron, j'en
mais
sais rien.
Ils ne savent pas, ils ne sont pas renseignés.
Et eux, ils font, oui, monsieur Macron, s'il vous plaît, soyez gentil.
Ça se finit toujours comme ça. On n'est pas content, pas content. Ah,
voilà. Manu, je dis, putain, mais pourquoi je viens?
Manu, sois sympa, mec.
Mais oui, c'est ça.
Le problème, c'est que ça n'a aucun impact en plus.
Mais oui, ouais. mais en fait.
Ça fait du pain
en
et
fait,
des
les
jeux.
Gens, les gens ont une agressivité comme ça dans la, au téléphone, sous pseudo, machin. Mais dès qu'il s'agit de se dévoiler un minimum.
Ah, il n'y a plus personne.
Non, et puis au-delà d'avoir des positions politiques concrètes.
Et, ben, aussi.
Il y a les gauchistes qui nous agressent. Fasciste, raciste.
Ça veut dire quoi? C'est quoi un facho?
Oui, mais eux au moins, ils viennent sur le terrain faire les dingos, alors que tout le reste, la population, ils rasent les murs. Les gens rasent les murs. Y a, et ça, faut que ça s'arrête.
C'est oui et non. Parce qu'ils rasent les murs et les gens, comme à l'image de toi, l'image de moi, de Kiev, qu'on a des tafs, qu'on est toujours. En fait, les gens sont tellement pris dans leur bulle, ils sont tellement occupés à faire marcher un business, à faire créer quelque chose, qu'ils n'ont pas le temps d'aller militer, ils n'ont pas le temps de sortir, ils n'ont pas le temps d'aller manifester. Et en fait, la gauche, c'est que des mecs qui travaillent pas, donc ils ont le temps d'aller faire chier tout le monde. Il y a ça aussi, les mecs qui me disent, moi je peux pas venir parce que bah, j'ai mes gosses, parce que j'ai ma boîte, parce que moi je bosse demain.
Oui, mais d'accord, ok, je veux bien. Mais comment faisaient nos grands-parents?
Ah, mais c'est pour ça que je dis, t'as raison qu'il faudrait que ce
parce
soit
parce que nos grands-parents, ils bossaient pas 35 heures. Hein. Bah, je peux vous dire qu'à l'époque, les gens qui sont nés avant-guerre, putain, ils faisaient des heures. Parce que c'est pas nous qui avons reconstruit le pays, c'est pas les immigrés non plus qui ont construit le pays. C'est des Blancs. C'est Dupont-Durand, né en 1920, né en 1915, en 1925. C'est eux qu'on fait. Qu'on n'est pas totalement en faillite aujourd'hui.
C'est clair.
Tout à fait.
C'est vrai, quoi. Donc, comment ces gens-là, comment cette génération-là a fait, alors que pour eux, c'était beaucoup plus dur.
Je pense qu'aujourd'hui, on est assommé par.
Ils avaient 4-5 gosses, ils n'en avaient pas un.
Et ils n'avaient pas les conforts qu'on a aujourd'hui. Mais justement, c'est le confort qui nous a
abouti. Non, mais t'allais dire la bonne chose, je pense, assassiné par les charges. Maintenant,
Non, mais les charges, mais même, c'est pas ça.
Avant, un père, il pouvait subvenir aux besoins de sa famille avec un boulot. Maintenant, même deux boulots, les gens n'y arrivent plus. Donc, c'est normal, on a fait exprès de m'attaquer les gens de charge pour obliger les femmes à aller travailler, mettre les gamins en crèche, etc.
Et même sans ça, on a acquis du confort qui est quand même très 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 important.
L'assistanat.
Et les gens ont peur de perdre ça. Je pense qu'au début du siècle, les gens n'avaient pas le confort qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre, finalement?
Non, c'est que c'est plus dur de l'avoir maintenant. Et c'est que là, les gens sont beaucoup beaucoup assistés. Avant, il n'y avait pas d'aide. T'étais obligé d'y aller, t'étais obligé de t'y filer, sinon t'avais rien.
Là, on leur donne des aides, ils vont fermer leur gueule et puis c'est fini.
C'est soit ceux qui ont les abeilles, ils sont confortables dans leur ils veulent pas bouger, et les autres qu'on mis du temps à bâtir ça, ils veulent pas le perdre.
Mais il y a aussi une autre chose, c'est que les gars à l'ancienne, nés avant guerre et tout, d'ailleurs, Macron, et je le dis pour le coup, hein, pour moi, hein, c'est mon avis, il a fait avec le Covid, etc., toute cette génération née avant guerre qui est tombée, et ils ont fait tomber ça sciemment. Pour le coup, je le dis très sincèrement, hein, mais eux, avant, ils étaient solides. Ils étaient solides, ces mecs. Ils étaient forts. Ils allaient au turbin. Alors qu'aujourd'hui, on est tous des fragiles. Il faut dire les choses.
Déjà, à l'époque aussi, c'est pareil. Ils faisaient tous le service militaire. Il y avait ça. Il y avait des choses où on leur apprenait aussi l'amour de la patrie, l'amour de plein de choses. Là, les gamins, ils ne savent même pas ce que c'est. Moi, j'ai vu un micro-trottoir. C'est un truc de fou. T'as des jeunes qui ont 18-20 ans. T'as le mec qui leur demande c'est quoi la devise de la France. Les gens disent,
ils savent pas.
C'est quoi une devise?
Non, mais après ça, ils sont très axés.
Vous vous rappelez, vous regardez parfois les images de l'INA?
Ouais, j'adore. Sur YouTube.
Quand vous voyez des élèves de 1950, 1960 quand ils parlent.
Même les gamins, comment ils s'exprimaient, c'était fou.
C'est dingue,
hein. Mais
notre level. Hein.
Ça, c'est tellement. C'est tellement à l'opposé de ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin,
Même dans les années 70, ils sont allés là, dans les cités voir la diversité. Même eux, ils étaient à un niveau supérieur.
Bien sûr, c'était une migration de travail.
Mais c'est dingue. Vous imaginez le changement.
Et leur père rigolait pas du tout. Hein. Moi, j'ai grandi dans une cité parisienne. Ouais. Dans les années 90, je peux dire que ça rigolait pas. Hein. Les jeunes de 15, entre 15 et 20 ans qui faisaient des conneries, mais leur père, il est massacré.
Il y avait une éducation qu'il n'y a plus maintenant, de toute façon.
On craignait nos parents. Moi, j'ai vécu en cité HLM aussi. Ma mère, elle était femme de ménage et il n'y avait pas trop de pognon. Mais je peux te dire qu'on ne bougeait pas d'un pouce et fallait pas. Parce que si elle nous disait, tu rentres. Alors,
c'était la honte de la famille.
On n'avait pas les téléphones pour l'heure et tout le bordel. Elle nous disait, vous rentrez quand les lampadaires s'allument. Je peux te dire que si les lampadaires étaient allumés et qu'on n'était pas rentrés, c'était même pas la peine. Ouais.
Il faut revenir un peu à ça aussi.
Mais bien sûr, redonner des valeurs et des bases aux enfants, en fait. Parce que ça va faire quoi là, quand on voit les gosses aujourd'hui, ça va donner quel genre d'adulte? Franchement, il y a de quoi être inquiet. Hein.
Bah oui, c'est OK de faire des tempêtes d'émotions.
Attendez, bien sûr, mais attendez. Moi, je me rappelle quand j'ai appris le vélo. Alors, j'ai appris ça quand j'étais môme en Pologne. On m'a mis sur le vélo, on m'a envoyé comme ça. Ah, vas-y, fais le vélo.
Sur une falaise.
Et voilà. Mais nager.
Alors que là, aujourd'hui, les casques, les genouilles, les coudières, les genouilles.
Après, il y a des trucs qui sont bien aussi, parce que des fois, on se demande comment ça se fait qu'on a encore envie quand on voit nos parents.
C'est la culture de l'échec.
Quand on voit les parents qui fumaient dans la bagnole et tout, on se demande comment ça se fait qu'on a encore envie. Mais enfin, voilà.
Non, mais un enfant, c'est solide.
Ouais, on vivait, on était imprégné de quelque chose.
Je pense qu'on a vécu. Enfin, moi, j'ai vécu mon adolescence dans les années 90.
On se cassait la gueule, on montait sur le vélo, on se recassait la gueule. Vraiment. Après, c'est comme ça que t'apprends.
Ah, bah tiens, un message à notre ami Benas qu'on salue. Il faut réveiller la majorité silencieuse.
Bonjour, maître. Comment allez-vous?
L'État tue à petit feu les commerces et les agriculteurs. Mais ça, c'est encore un truc que les gens ne comprennent pas. Ça, moi, je comprends toujours pas. J'ai beau faire des micro-trottoirs, voir les gens, j'ai vu les agriculteurs, j'ai vu les commerçants, les artisans. Les amis, arrêtez de me dire oui, mais il faut la souveraineté, machin, tout ça, alimentaire ou je sais pas quoi, que l'État comprenne. Non, mais l'État, ils savent tout ça.
Mais ils veulent votre mort.
Je vous comprends. Ouais. Faites comme si vous étiez, je sais pas moi, Louis XVI, on vous emmène à la guillotine, et comme si Louis XVI disait non, mais en fait, c'est bon, j'ai tout compris, sauvez-moi. Non, vous irez à la guillotine. Enfin, comment l'expliquer aux gens?
Ah, mais il faut que le coup. Bah, c'est ce qu'on. Je crois qu'on en parlait il y a pas longtemps avec Ben, il dit il faut que le coup prétombe. Il dit, moi, je milite pour que la France insoumise soit élue en 2027.
Mais moi, je vais te dire autre chose. Je pense que si la France insoumise est élue,
mais au moins, on aura
je pense qu'en 3 mois...
Mais ça va exploser.
Ah oui, bah, tout qui va péter. Là.
Regarde le maire de Saint-Denis, Delefi, là. Ça fait quoi, un mois qu'il a ses fonctions? Il fait parler que de lui, il fait que des conneries.
Et faut laisser, ouais. Effectivement, je pense que ça pourrait. C'est con à dire, mais il faut que ça s'écroule pour que ça remonte.
Mettre la tête dans la merde. Ils vont comprendre.
Bon, votez Mélenchon.
On est un peu dévié.
Radio Courtoisie appelle à voter Mélenchon.
mais ça mènerait à une guerre civile, hein, ça c'est sûr.
Il faut que les gens goûtent à la médecine.
Ah, ce serait radical. Bien sûr. Mmh.
Tiens, un message d'auditeur qui nous a appelé. Il est bientôt l'heure de la fermeture des jardins de l'Occident stade très pessimiste, et en 2050, 2,5 milliards en Afrique, nous disparaîtrons comme le sucre dans le café. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il parle de l'invasion migratoire.
Si en 2050, il y a 2,5 milliards d'Africains...
Bon, ça, c'est encore une fois, c'est des maths. Hein, c'est pas...
Il y a 3% de gens qui immigrent, en gros. Voilà, c'est comme ça.
Et je rappelle à tous les gauchistes qui prônent les minorités, etc., que les Occidents blancs, comme à l'image de nous,
seront la prochaine minorité.
Nous ne sommes que 8% sur la planète.
Oui.
On n'est que 8%, donc
et
la minorité, c'est déjà nous.
Et on dérange encore, nous.
Mais c'est déjà nous, la minorité, donc arrêtez de dire non, la minorité visible, non, c'est déjà nous,
la minorité. La minorité, c'est nous.
Ça, c'est intéressant ce que dit ce monsieur, parce qu'en 2050, il y a 2,5 milliards d'Africains, on va dire. Voilà. 3% d'entre eux immigrent. Donc, ça fait.
C'est
25 millions fois 3, ça fait 75 millions par an.
C'est la population de la France.
Voilà, donc 75 millions par an qui,
traversent
la Méditerranée.
Et en 20 ans, bah, ils sont doux parce qu'ils font des enfants.
Donc qu'est-ce qui va se passer? Il faut penser à 2050, parce qu'on ne pense pas, je trouve que les politiques ne pensent pas justement assez à 2050, 2060, etc.
Mais on parle de grand remplacement quand on le dit. C'est un gros mot, c'est fasciste, mais il n'y a rien de fasciste, c'est une réalité. Il faut prendre conscience que déjà, et en plus, ce sont des personnes qui font plus d'enfants que nous.
Bah oui, il y a une sacrée baisse de natalité.
Donc c'est juste mathématique, c'est une évidence. Ils font plus d'enfants que nous. Comment tu veux lutter contre les chiffres?
Déjà, c'est parce que c'est culturel.
Mais oui, mais alors du coup, qu'est-ce que l'État français doit faire?
Mais fermer les frontières.
Fermer
les frontières, remigrer tous les OQTF, ça doit rentrer. Tous les illégaux, ça doit rentrer. Oui. Stop.
et accepter une immigration positive qui vient pour travailler dans les domaines
Exactement.
Et les secteurs d'activité
où c'est
nécessaire.
Enlever les aides non contributives, tout ça, on donne pas pour rien. Oui. On n'est pas l'armée du salut.
Stop.
Au bout d'un moment, un pays, c'est une entreprise à ciel ouvert avec un budget, un chiffre d'affaires annuel. Si tu dépasses et si tu es en excédent, bah, à l'image de notre budget à 3000 milliards et on creuse encore, on pourra jamais rembourser cette putain de dette. Au bout d'un moment, c'est des maths. Hein. Quand tu n'as plus d'argent, tu fais comment? Mais les gauchistes n'ont jamais eu à gérer le moindre business ni à se réaliser en tant qu'être humain. Donc,
mais bien sûr.
Le cours d'économie basique, ça leur passe au-dessus.
Mais la France, c'est notre maison. On ne laisse pas rentrer n'importe qui chez soi.
Bah,
que
c'est
je sache.
Logique.
Donc voilà, moi, je ne vais pas laisser rentrer n'importe qui dans ma maison. Et bien la France, c'est pareil. On doit pouvoir choisir
moi,
qui rentre,
moi,
qui
veux
sort.
Dire, moi, Stop. Je veux dire une chose. S'il y a 75 millions de personnes qui traversent la Méditerranée.
Il n'y a plus de France
Il faut utiliser. Je ne pense pas qu'on puisse utiliser des moyens démocratiques.
Bah, au bout d'un moment, c'est tu ne peux plus. Tu peux au début, mais quand ça marche plus, bah.
Mais de toute façon, si ça continue, effectivement, ça va mal se terminer. Vous, c'est une réalité.
Vous qui vous engagez, qui allez dans les villes, etc. Comment vous voyez la France du futur? Est-ce que certains parlent de guerre civile? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est possible?
Moi, je pense que c'est probable.
Oui.
Ouais, je pense
si
que
les choses ne bougent
c'est
pas,
même quasiment
avant,
inévitable. Oui. Quand je vois la véhémence du camp d'en face. Je pense pas qu'on ira vers une entente correcte. C'est pas, ils sont pas dans l'entente, ils sont pas dans le dialogue, ils sont
dans la violence.
Là maintenant, on en vient à se faire assassiner à coups de savate dans la rue. Il y a un, on en parlait hier, un Soudanais qui avait égorgé trois personnes dans la rue. Il a pas
un
fait
Soudanais
un jour,
où ça?
À Angers.
À Angers, d'accord.
Il a pas fait un jour de prison.
Pourquoi?
Parce que il a été reconnu comme tous déficient mental. Il a été en asile psychiatrique, et il est ressorti. Donc là, on a des pas, j'allais dire des potentiels, mais pas des potentiels, des criminels avérés, des tueurs en série parce qu'il a tué plusieurs personnes qui se promènent. Ou les violeurs parce qu'ils n'ont pas les codes moraux. Arrête, il n'y a pas besoin de codes moraux pour savoir que tu violes pas un gosse ou que tu frappes pas une femme pour lui faire des agressions sexuelles. Là, en plus, en disant ça, la gauche dit ça. Hein. La gauche dit non, ils n'ont pas les codes de la société. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire que dans leur pays, en fait, c'est des animaux. C'est complètement con, ça, il n'y a aucune logique.
Alors, je vais rebondir sur une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque de la jeune Meghan qui s'était trouvée violée par Oumar Ndai, qui l'a empalée avec un manche à balai de 75 cm. Hein. Elle s'en est sortie quand même, elle s'en est sortie par miracle. Elle a fait du coma, etc. Et ce type, là, vient d'être jugé. Il a pris la perpétuité, il a fait appel. Et pas un mot des féministes de gauche. Bah oui, parce que Meghan, c'est pas la bonne victime.
Bizarrement.
Et l'agresseur, c'est pas le bon agresseur.
Ouais.
Hein, parce que l'agresseur, on a Lucas Larrivé qui a tué Justine Vérac. Ça aurait été lui qui aurait fait ça à Meghan. Alors là, elles auraient ouvert leur gorge.
Est-ce que les gens sont conscients de ça? Est-ce que dans la population... les gens sont conscients que, au niveau de l'insécurité, tout ça, c'est il y a quelque chose qui va pas quoi. Est-ce que ce qu'on se dit, les gens viennent vous le dire, oui, en effet, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on arrête ça.
Il y en a qui sont dans le déni, moi, dans ce qui me
complètement,
concerne.
Complètement, oui.
Je pense que tant qu'ils n'auront pas goûté à ça, les gens vont dire, mais non, ça va aller, c'est pas grave.
À l'image des Parisiens, tant que c'est pas en bas de leur immeuble, ils diront que c'est pas vrai.
De toute façon, c'est comme beaucoup de personnes de gauche et de plus en plus, c'est en fait une fois qu'il leur arrive quelque chose de dramatique,
passe à droite.
Qu'il vire à droite. Il y a rarement des personnes de droite
ou
qui virent à gauche.
Qui disent vous n'aurez pas ma haine.
Quoique ça se passe en bas des immeubles de Paris, pour le coup, Paris, enfin, je ne peux pas prendre l'exemple de Paris parce que ça se passe en bas des immeubles de Paris et ça ne change rien. Hein, ça n'a rien changé en fait. Hein.
C'est fou quand même.
Alors, je pense qu'il y a en fait aussi l'être humain, le cerveau humain qui fonctionne un peu comme ça, où le déni protège. Ça permet de. Parce que si tu prends conscience des véritables horreurs qui ont lieu,
tu
vas devenir fou, tu vas. Voilà. Et donc les gens préfèrent se dire oui, non, mais ça n'arrive qu'aux autres, c'est pas à moi que ça va arriver, etc. Et puis ça reste des faits isolés, etc. Les gens veulent se rassurer comme ça. Au fond d'eux, ils savent. Mais ça leur permet de continuer à vivre.
Anne-Sophie Lapix, ça fait au moins deux ou trois fois qu'elle se prend un homejacking. C'est vrai. Et elle est toujours. Socialiste quoi. Je sais pas, je comprends pas.
Elle a subi des violences physiques ou pas?
Ah oui, oui. Et elle s'est fait des homejacking, c'est-à-dire voilà, les saucissonnées, on lui prend parce que bon, elle habite
dans les beaux quartiers,
elle habite dans un particulier exactement même. Et voilà quoi.
J'ai même pas l'explication de comment on peut nier tout ça. C'est fou quand même. C'est fou.
Parce qu'une fois que t'as fait le constat, t'es obligé de changer. T'es obligé de te réaliser, t'es obligé de faire des efforts à l'image d'une de nos ambassadrices qu'on vient de recruter là.
Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé ?
Bah, c'est justement, elle était, elle dit elle-même, elle dit j'étais une grosse gauchiste avant et elle s'est fait malheureusement, elle s'est fait agresser et je crois s'est fait violer quasiment.
En tout cas,
agression sexuelle par un OQTF dans son appartement. Il l'a suivie jusqu'à chez elle et ils se sont battus pendant 20 minutes. Il y a eu agression sexuelle, etc. Et là, elle a dit, bah, c'est à ce moment-là que malheureusement j'ai ouvert les yeux et maintenant elle nous a rejoint, elle milite pour nous et je trouve qu'elle a un courage immense de le faire. Donc, Aluka, on te salue.
C'est fou. Hein.
Mais il faut ça, quoi. Il faut ça.
Il lui a fallu ça pour qu'elle se dise, mais oui, il faut que je réagisse. C'est pas possible, tout bien, tout bas. Ouais. Le monde des bisounours, ça n'existe pas.
Est-ce que, par exemple, la droite peut aussi émerger plus par la ligne de la sécurité ?
Bien sûr. C'est primordial. C'est ce que réclament la plupart des Français, déjà.
C'est des besoins vitaux. Pouvoir manger, pas se faire tuer.
Donc économie et sécurité.
Ah oui. Bien sûr.
Bah, c'est ce qui concerne le plus les gens, hein. Le pouvoir d'achat et la sécurité. C'est ce qu'on entend le plus parler, nous. Hein.
Ben oui.
On n'arrive plus à vivre et on ne peut plus sortir parce qu'on a peur.
Comment se fait-il que la droite actuelle, elle n'est ni dans la sécurité, enfin, dans le discours, ni dans l'économie parce qu'elle n'a toujours pas supprimé les lois
de
gauche. Hein.
De toute façon, la droite n'a pas de pouvoir, de toute façon.
Mais si, Nicolas Sarkozy, tout ça à l'époque, même Jacques Chirac.
C'était la droite caviar de l'époque, ils pensaient qu'à leur tronche.
C'est la droite molle. Hein,
encore maintenant, hein, Sarkozy, il touche 40 000 euros par mois, il est bien content. Hein. Et il voudrait revenir, je trouve ça... Moi, j'ai trouvé abyssal de conneries. Hein. Les mecs, ils ont fait n'importe quoi, puis ils reviennent comme si on allait les réélire, ils sont incroyables. Ouais.
Alors, une dame nous appelle, elle dit « Déjà en 1996, j'ai vécu l'animosité de chance pour la France, dans la rue, on me disait que nous serions bientôt remplacés. »
Déjà à l'époque.
Eh ben oui.
C'était il y a 20 ans. Hein.
Il y a 30 ans. 96.
Ah oui, déjà à l'époque, en fait. Ouais. C'est fou.
Parce que le truc black, blanc, beurre, c'est bidon. Hein, faut dire les choses. Hein.
C'est ridicule.
Ça n'a jamais marché, c'est pas vrai. Hein.
Puis c'est réduire les gens à leur couleur de peau, donc c'est du racisme primaire au final.
C'est ça.
Parce qu'une chance pour la France, elle n'est pas forcément noire.
Exactement.
Moi, les gauchistes, c'est des chances pour la France. Pour moi, les antifans inquiéfiés, là, qui font 50
mais
kilos.
Bien sûr.
Moi, j'ai plus de véhémence envers ces gens-là qu'envers les immigrés.
Ah, mais ah, oui. Moi, je.
Et de très très loin.
Je déteste bien plus les anti-France. Bah, c'est clair. Moi, j'ai rien contre les personnes étrangères qui bossent, qui n'emmerdent personne.
Il y a justement un débat là-dessus où les gens disent vous préfériez avoir que des chances pour la France, de la diversité, ou que des gauchistes. Et souvent, les gens disent des gauchistes quand même.
Sans les gauchistes, il n'y a pas la diversité.
Exact. Bah, moi, je n'ai rien contre la diversité à partir du moment où
c'est des gens
qui bossent.
Non, mais il n'y a pas la diversité racaillesque.
En tout cas, mais les racailles, c'est aussi des Kylian, des machins, voilà, des gens...
Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, il y a aussi une assimilation à l'envers. Bon, vous connaissez notre studio à Géopolitique Profonde. Nous sommes dans le 8e arrondissement. C'est quand même un quartier chic à la base. C'est le Triangle d'Or. Et il y a 3 ou 4 lycées autour de nous. Et moi, je vois les blancs des lycées. Mmh. Ils ont les mêmes looks, les mêmes coupes de cheveux.
Et wesh, et frères, ouais. Et machin.
Et voilà, alors qu'ils sont blancs.
C'est de la bourgeoisie.
Mais c'est de l'assimilation inversée, c'est ça. Ouais.
Non, mais c'est complètement ça.
Wesh, frère.
Ça, c'est des lois humaines, hein, c'est l'appartenance au groupe.
Parce que là où j'achète mon sandwich, c'est collé à un lycée et je les vois tous les jours, du coup. C'est les mêmes. Et moi, je me dis, mais en fait, l'assimilation a marché. Hein, ils sont tous pareils. Ah bah ouais.
Alors que les mecs à qui ils essaient de ressembler, ils les méprisent.
Ouais.
Pour ça, justement.
Mais
exactement.
C'est ça le pire. C'est ça. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Après, quand on est jeune, moi, je peux comprendre. Je veux dire, moi, j'ai vécu en cité HLM. Et quand t'es jeune, t'as envie de te sentir appartenir à un groupe.
Puis t'es
en fait.
À gauche, quand t'es jeune,
et
t'es
quand
à gauche.
T'as,
parce que t'as pas de responsabilité, tu t'es pas réalisé.
Il suffit que tu sois dans un lycée ou un collège où t'as beaucoup de wesh wallah, bah tu vas t'assimiler parce que sinon tu vas te sentir un peu seul et isolé en fait.
Ça dépend si t'as une personnalité, etc.
Bon. Oui, mais la plupart du temps, les jeunes,
ils sont faibles, mais c'est
normal quand t'as 16-17 ans.
Parce que les parents font pas le taf. Moi, mes enfants, jamais de la vie, ils parlent comme ça. Et pourtant, Dieu sait qu'à l'école primaire, j'entends des trucs là.
Tiens, est-ce que on a Bruno Gollnisch là, est-ce qu'il nous voit ou pas?
Nous, on le voit en tout cas.
Ah, bah, je lui fais quand même un petit coucou. Dis-lui que je lui fais un petit coucou. Bruno Gollnisch. Quand même, Bruno Gollnisch qui arrive.
J'aime beaucoup.
Ah, mais c'est pas grave, je lui fais un coucou quand même.
Mais respect, mon cher monsieur, si vous m'entendez.
Voilà, Bruno Gollnisch. Bah oui, il a entendu. Il a entendu. Salut Bruno. Ça fait très plaisir de le voir ce matin. Dites-moi, alors du coup, bah, Il reste 3 minutes. Vous serez tout à l'heure, 14h, place de la République, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça. Et au-delà de ça, on sera.
Dites-moi.
Si Dieu le veut.
Qu'est-ce que vous faites là à Paris, à part être à la République 14h?
Ah bah, on était à la manif, on vient pour toi. Hier, on était en soirée avec, pour faire des contacts, etc. Qui vont arriver bientôt, je peux pas le dire ce que c'est passé.
Il y aura des petites news dans les jours et semaines à venir.
Mais Némésis, tout ça peut-être, je sais pas.
Non.
Némésis, on les entend plus beaucoup là depuis l'affaire Quentin. Je pense qu'ils sont un peu dans la tourmente et j'espère pour eux que ça va se décanter.
D'ailleurs, je sais pas si elles seront présentes à 14h. Je serais bien qu'elles soient là, mais enfin voilà.
Ils sont un peu dans la sauce, mais j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir relever la tête.
On salue Alice.
Mais au-delà de ça, le 11 avril, on sera à Nantes, à Angers du coup, parce que à Nantes,
Angers, 14h. Et le
Place Leclerc.
Place Leclerc, 14h à Angers.
On est désolé. Si tout va bien, il y aura un cortège. Ouais. Mais ça reste sous réserve de ce que va en dire la
préfecture. Encore une fois, il n'y a pas d'histoire de drapeau, de pas drapeau, de raciste, de pas de raciste. On prône les choses qui vous concernent tous les jours. Donc il n'y a pas d'histoire de t'es de gauche, t'es de droite, t'es d'extrême gauche, t'es d'extrême machin. Le quotidien qu'on vit, vous le vivez comme nous. Donc au bout d'un moment, réveillez-vous.
L'insécurité, le pouvoir d'achat, le prix de l'essence. Voilà. Donc on vous attend
l'amour
nombreux.
De notre pays, tout en fait, tout ce qui nous concerne tous.
Au quotidien. Puis vous plaignez pas que ça ne change pas si on est les seuls à agir.
Exactement. Ça, la Radio Courtoisie, ça on le sait. Hein. Ça les gens le savent ici et justement ils agissent. Et,
merci.
On est très fiers justement de pas avoir les auditeurs de France Télé. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr.
La crotte de nez de la fin.
et si je peux ajouter aussi un message très rapide. Si vous avez regardé un petit peu notre association les Citoyens Patriotes, nous avons déjà 10 ambassadeurs dans la France. Nous en recherchons dans toutes les régions de France.
Comment vous rejoindre ?
Sur le site lescitoyenspatriotes.org, dans la catégorie nous rejoindre, vous pouvez adhérer, vous pouvez candidater pour devenir ambassadeur et militant. Et plus on sera, plus on pourra faire de grandes choses.
L'union fait la force, ça a toujours été, ça sera toujours comme ça.
Exactement.
Merci à vous trois pour cette très belle émission. Voilà, rejoignez les citoyens patriotes. Ils seront aussi présents, et moi-même je serai présent, 14h République. D'ailleurs, je tournerai un reportage. Je salue donc du coup Arnaud, Sylvie, je vous remercie. Et puis, place à Antoine Assaf et à Bruno Gollnisch, hein, vraiment. Voilà, monsieur Bruno Gollnisch.
Le grand monsieur.
Voilà. Salut Bruno.
Merci Mike. Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal des controverses dirigé par Mike Borowski, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 4 avril 2026 de 10h30 à midi et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.